Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le podcast numéro 448 de la rédaction. Déjà 448, ça fait beaucoup.
Et c'est pas la seule chose qu'on
dit ça à chaque podcast maintenant.
C'est ce que j'allais dire.
Ouais. Parce que ça risque d'être un chiffre impressionnant à chaque semaine maintenant.
Ouais. Ça peut pas, ça peut pas baisser. Ça peut absolument pas baisser, c'est ça qui est fou.
Ne parle pas sans micro, podcast, ça ne sert à rien.
Podcast d'actualité cette semaine, dans lequel eh bien, nous allons voir intervenir l'ami Traz.
Non, il y a Eve d'abord, on en refame.
Non, Eve, elle a fini, on garde
okay,
le meilleur pour la fin.
Salut, bonjour, merci, salut, je me casse.
Voilà, on a Julo aussi qui est avec bonjour, nous, bonjour. Thomas qui est avec nous. Et je disais, donc le meilleur pour la fin, c'est Eve, évidemment.
Salut.
Eve qui sera là pendant l'enregistrement de ce podcast en direct pour discuter avec vous sur Twitter avec le hashtag GameBlogLive et aussi sur le chat de la Gameblog TV. Elle va prendre vos remarques et interrogations durant toute l'émission. Ça va être passionnant. Eve, est-ce que tu as déjà des choses que les gens te disent
tout le monde dit bonjour.
Sur lesquelles on pourrait, d'abord, on pourrait déjà rebondir.
Bah, rebondir sur des saluts à tous, bonjour et hello Gameblog.
Salut à tous,
bonjour et hello Gameblog.
Exactement.
Salut.
Alors cette semaine, nous allons étudier en particulier deux thèmes. Le premier, c'est Assassin's Creed Origins. Pourquoi, nous demanderez-vous ?
Parce que c'est un jeu bizarre.
Eh bien, tout simplement parce qu'il y a deux choses très importantes.
C'est vrai.
Que nous avons pu voir, à commencer par le Discovery Tour, qui est disponible depuis une semaine. Des gens à vous donner notre avis sur le Discovery Tour. Julo l'a parcouru, ce passionné d'histoire, ce néo-passionné d'histoire.
Ou pas.
Néo-passionné d'histoire.
Bah, parce que en vrai, tu connais rien.
Tu connais rien. Tu connais que dalle, tu dis que de la merde.
Ça s'appelle un opportuniste.
Et nous donnerons aussi notre avis.
Putain, je rêve. Tu risques un truc d'un moment à l'autre, c'est que je m'en aille.
Ah bah ok.
Et cool. Alors, non, c'est moi que j'ai dit.
Ça sera à Trace, le nouveau spécialiste de l'histoire.
Je partirai en premier.
Moi, je vais vous parler des Illuminati et tout ça.
Tu serais pas néo-relou, toi, par hasard.
Non.
T'es un néo-con.
Néo-relou.
Le pénible. Bon. Ensuite, après avoir parlé du Discovery Tour, nous reviendrons sur le Discovery Tour pour parler d'une polémique qui est née au sein de ce mode spécial, à savoir
une néo-polémique.
Une néo-polémique. D'accord. Absolument. T'écoutais du néo-metal au début des années 2000 ou pas?
Non, évidemment.
Jamais de la vie.
Bref, est-ce que Ubisoft a tous les droits avec l'histoire dans ce mode? On en discutera évidemment tout à l'heure avant de passer au deuxième DLC que Thomas a pu essayer et qui visiblement se présente très très bien.
Tout à fait. Et moi j'écoutais du néo-metal et j'en suis fier.
Voilà. Mais t'es pas mort depuis?
Non. Et j'ai rien contre, hein. J'ai juste dit que j'en écoutais pas.
Ah, j'ai très peur. Hein.
Bon, faites ce que vous voulez, mais faites-le.
On s'en fout.
Le thème numéro 2, ce sera Metal Gear Survive, qui est sorti, qui est disponible et que Thomas a rincé, a retourné dans tous les sens. On essaiera de savoir si ce jeu mérite la haine ou l'indifférence qu'il suscite depuis son annonce il y a quelques années maintenant.
Le Neo Metal Gear, du coup.
Tout ça y est, tu vas rester sur
Neo.
Mais là, c'était
pertinent pour le coup. Donc,
ouais, exactement.
Premier Metal Gear post-Kojima.
Voilà. Mais avant ça, comme chaque semaine, quand on fait des bilans de l'actualité, nous allons passer au win et au fail. Mais avant ça encore, je t'ai bien eu.
Ah,
hein.
T'as failli faire un néo oubli.
il va tout faire néo ce con là. Non, on va parler évidemment. On l'a dit au début, on a 448 podcasts et
donc,
on est à 11 ans de Gameblog.
11 ans de Gameblog. Donc bon anniversaire Gameblog. Merci pour tous vos petits messages d'encouragement, de remerciements et tout ça. On vous fait des gros bisous. Bah 11 ans, c'est pas un anniversaire spécial à fêter. On se disait tout à l'heure, peut-être on fêtera comme il se doit les 18 ans, la majorité de Gameblog. Les 15 ans, les 20 ans. Voilà. Bon, 11 ans, c'est pas mal. Vous étiez où à 11 ans? En 6ème, a priori.
Ah, 11 ans, oui,
comme tout le monde.
Ouais, je rentre en 6ème aussi.
Bah, oui, oui.
À peu près comme tout le monde. Toi, t'avais déjà redoublé 3
96.
Fois.
96.
4 fois.
4 fois.
Ouais. Toi, t'étais déjà néo-relou ou.
Je sais pas, j'étais pas en CPP.
Néo-redoublant.
Pardon.
Non, j'ai pas fait une très bonne 6ème pour te dire. Mais
moi non plus, j'ai fait allemand élevé. Hein.
J'ai embrassé pour la première fois une fille sur la bouche.
Ah, putain, bien.
À 11 ans.
Ouh là là.
Précoce.
Attends, 6ème. Ah non, j'avais rien fait tout ça, moi.
Hein?
Néo-romance.
Un néo-romance, ouais, tout à fait.
Non, j'ai 11 ans, c'est beau.
On m'avait peut-être. Moi, j'ai peut-être embrassé un garçon, vite fait.
Ouais.
Non.
Et t'as aimé ça en
Non, moi, j'ai embrassé un garçon pour la première fois
chez J-Pad.
Chez J-Pad, j'étais un peu vieux.
Oh là là. Ouais. On va pas raconter rien.
Voilà.
Bon. Donc, 11 ans de Gameblog, voilà, c'était super.
Voilà. Bon anniversaire.
Eve, bah, Eve n'était pas
merci
née,
pour ton enthousiasme.
Oui, Eve n'était pas
et
née il y a 11
ans,
c'est vrai.
Non, j'étais pas née, oui.
C'est exact.
Quant au travail des enfants.
Alors. Maintenant qu'on a fait ce petit détour par les 11 ans de Gameblog, on va passer au win et au fail. Traz, le win,
ouais,
c'est pour toi cette semaine
problème.
Parce que t'as envie de winner.
Ouais, j'ai grave envie de
et
winner.
Et le win, c'est quoi
tout de suite, je crois.
Ah, quel est le win?
Bah, c'est le marché de jeux vidéo en France qui se porte plutôt super bien. Hein,
ah bon?
Puisqu'il progresse de 40 milliards de pourcents.
Non, quoi? Mais d'où sors-tu ce chiffre?
Bah, c'est le sel a communiqué les
voilà, le sel a fait son résumé habituel de l'année. Mm-hmm. Et il s'avère, n'est-ce pas, que. tous les secteurs progressent.
Là, c'était l'acteur studio enthousiasme là, parce que c'est raté.
Que tous les secteurs progressent.
Ouais.
Aussi bien PC gaming que les consoles et les mobiles. Et niveau console, qui nous intéresse beaucoup.
Mais c'est 40 milliards de pourcents, c'était vrai ou il y a un vrai?
Oui, c'était vrai, ouais, bien sûr.
Non,
et alors, dis le vrai. Dans le chiffre d'affaires en France, c'est 4,3 milliards d'euros.
D'accord, et une progression de combien?
De 18%.
Ah oui,
par rapport à 2016, évidemment.
Bah, c'est,
de, c'est, 2017.
C'est assez impressionnant. Hein.
C'est plutôt impressionnant, effectivement. Ouais. Il y a un bon trend, ma foi, qui continue de progresser. Jusqu'à quand, on verra. Certains disent jusqu'en 2019, et après, ça va commencer à.
Et quand est-ce qu'on sera augmenté?
C'est ça, ah oui, aussi ça, oui. Et la CSG, un petit peu là-dedans. Hein?
Je crois que c'est fait. Bah, de 0,0005%.
Attends, est-ce qu'on va être augmenté de 18%?
Ouais, parce que voilà,
techniquement,
le jeu vidéo, ils sont bien, et nous? Hein?
Ah,
et nous, les milliards du jeu vidéo, ils sont où? Ils sont pas chez nous.
Ah, bah, ils sont pas chez nous, hein, ça, c'est sûr. Ils sont ailleurs.
Moi, j'ai toujours ma Renault 12 Gordini, là, qui marche pas, qu'il faut que j'emmène au garage.
Putain, parle pas de ça, tu verras ma caisse, tu flipperais. Bon, bah.
Tu l'as cramé, c'est ça?
Et pour la console, c'est 50, plus 56% quand même.
Surtout quand on monte avec toi en caisse, ça c'est. Ouais.
Non,
c'est
je clair. Sais, mais tout le monde fait surtout aux plumes.
Mmh. Oui.
Donc, je disais 31% pour les jeux consoles.
Absolument.
Les jeux des maths, c'est plus 46%. Ouais. Bon, après, il y a plein d'autres chiffres, mais vous les avez sur les jeux. Non, non, mais très honnêtement, là, je vous donne des chiffres globaux, mais il y en a beaucoup.
Ah, ça me saoule, ouais, c'est bon. Il y a
des chiffres à retenir, c'est ça, c'est 4,3 milliards de chiffre d'affaires.
Ouais.
Une progression de 18%. 31% pour les jeux consoles, plus 31% pour les jeux consoles.
Ouais.
Des maths plus 46% et PC gaming plus 10%. Voilà.
Ok, c'est, bah les... c'est retenu. Et le jeu le plus vendu de 2017 alors?
Bah c'est FIFA 18.
C'est incroyable.
C'est ce que c'est toi qui a fait la news
oui, c'est vrai.
Il y a quelques heures à peine.
Juste devant Call of Duty World War 2 et suivant le
suivant
qu'on parle du chiffre d'affaires ou bien des unités vendues, c'est Mario Kart 8 Deluxe ou Zelda, je crois.
En tout cas, Mario Odyssey plutôt.
Non,
Mario
Odyssey, hein. il est pas si haut que ça.
Ne sous-estimez pas le pouvoir de Mario Kart.
Mario Kart.
Ah, dans Mario Kart, on sait que c'est toujours le
best seller.
Donc voilà. Et GTA 5, c'est encore vendu par pelleté en 2017. C'est n'importe quoi.
Mais donc, What Remains of Edith Finch est pas dans le top alors.
Bah non.
Merde. Il est même pas dans le
top. Je l'ai acheté.
Non.
Ici, je crois que c'est le seul à l'avoir acheté.
Je l'ai acheté aussi. Romain aussi. Donc,
bon, on est trois.
Poufy l'a acheté. Tout le monde l'a acheté en fait.
Oui, on l'a tous acheté cinq fois.
Donc, là, c'est ton problème. Il y a en fait, finalement.
Ouais, c'est vrai. Il y a que F qui ne l'a pas acheté, qui devrait avoir honte.
Elle y a même pas joué, je suis sûr.
Alors qu'elle pourrait le faire en live et tout. Elle pourrait streamer dessus sur sa chaîne.
Vous parlez de quoi?
Ok, donc en fait, elle est défoncée.
Je suis en train de dire.
Ah oui, ok, d'accord.
Alors, vas-y, tu disais quoi? Qu'est-ce qu'il
dit? Il y a quelqu'un qui dit le vrai win de la semaine, c'est le Tifo Goku hier au Parc des Princes.
Exactement. Quelle honte.
Ok, vous avez tout à fait raison. Je suis d'accord. Moi, je voulais pas faire les chiffres, je voulais faire ça d'abord.
Oh là là, quelle honte.
Non. Trace de passionné de foot.
C'est vrai que c'était ouf. C'était génial.
Arrête.
Quand j'ai vu, tu sais, en plus, j'arrive.
Non, c'est bon, pourquoi t'as embarqué là-dessus?
Et il y avait juste, ils avaient mis le tout début, il y avait marqué rapportez-nous la 7ème boule de cristal, donc le 7ème championnat. En fait, j'ai dit putain, ils vont pas faire un Tifo Dragon Ball quand même. Et là, j'ai vu le truc se lever. C'était la méga classe quand même.
Bah quoi?
Non.
Quoi, tu préfères les tifos de la Juve?
Bah oui. Déjà pour commencer, non mais surtout.
Ils vont faire quel personnage de DBZ?
C'est génial de faire un tifo Dragon Ball.
Ça sert à rien de parler.
Ils vont faire Yamcha, non?
C'est indécent.
Mais attends, oui, il y a un mec qui a fait le tifo, le prochain tifo de Marseille et là il y a.
Oui, je l'ai vu sur Twitter, ouais.
C'est trop. Bref,
le tifo.
Bon, la France, c'est bien pour le jeu vidéo.
La France, le jeu vidéo se porte bien.
Parce que ça fait tiep, voilà pourquoi.
Pourquoi ça fait tiep?
Je sais pas. T'es pas foutu d'avoir une personnalité au PSG
Mais bien sûr que si.
Mais Goku, Goku n'est pas parisien. Goku, il est même anti-parisien.
Tu rigoles ou quoi? Goku, il est né à Paris.
Quoi?
Tu savais pas?
Alors autant je savais que Vegeta était de rang. Mais alors Goku à Paris, là franchement, je ne savais absolument pas.
Il est né à Gare du Nord, c'est ça.
Ah bon?
Ouais.
Ah mais je savais pas, je pensais que
c'est juste à côté de chez nous.
Ouais, pour moi, il est provincial, Goku.
C'est vrai? Bon, ok, tu m'as dit.
C'est un peu un paysan.
Bon, on va passer au fail maintenant.
Le fail.
Bon, on va mettre le tifo du PSG, mais
j'ai pas envie.
Ce sera pas ça.
Et bah, du coup, je vais rien dire. Voilà.
Ah bon?
Je fais une grève.
Tu t'es foutu de ma gueule.
Alors, c'est quoi le fail de la semaine?
Eh bien, le fail de la semaine, il concerne malheureusement Shenmue 3.
C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais il va sortir, t'es gagné.
Ça y est, tu l'aimes plus.
Tu crois plus en Shenmue
3. Franchement, moi, quand je vois les images, je me dis que Shenmue 3, ça tue.
C'est qu'il y avait le Magic Monaco cette semaine, le Magic 2018.
Paris, Magic, dit absolument.
Voilà, et donc, comme vous le savez, Yu Suzuki était l'invité.
Était très aimable.
L'un des invités spéciaux du Magic.
Ouais. Parce
et
que j'y étais pas.
Il était. Oui, voilà. Si tu avais été là, évidemment, ça aurait été différent.
Je l'aurais éclipsé.
En l'occurrence, on a envoyé Romain là-bas cette année pour aller l'interviewer. D'ailleurs, rendez-vous bientôt sur Gameblog pour l'interview de Yu Suzuki, mais pas que.
Et pas que, ouais. Voilà. Tu avais d'autres personnes.
Et donc, en fait, Cédric Bisquet, le producteur de Shibuya Productions, qui est un peu la personnalité qui a permis à Shenmue 3 d'aller sur Kickstarter et donc d'exister.
Et qui organise le Magic.
Et qui organise le Magic, effectivement, avait plus ou moins promis, nous avait bien teasé sur.
la révélation de nouveautés sur Shenmue 3 et notamment de phases de gameplay hein, qu'on aurait pu voir. Donc c'était évidemment très alléchant et on y allait cœur vaillant pour aller découvrir ça
rien d'impossible.
Et vous voilà vous décrire tout ce qu'on aurait vu. Le problème c'est que bah, finalement ils ont dévoilé quatre nouveaux screenshots.
Wow.
Et la vidéo que vous voyez passer actuellement à l'écran qui est un screener en fait qui a été fait là-bas.
C'est la vidéo internet
qui a été dévoilée dans un deuxième temps et qui n'est autre que la version longue de ce qu'on avait pu voir à la Gamescom. Et que moi d'ailleurs j'avais pu voir.
J'ai bien aimé, là,
il a pas frappé une vieille dans la vidéo.
Pardon ?
Il a pas frappé une vieille à un moment donné ?
Ah non, pas du tout.
Un vieux qui a cassé la gueule à une mamie.
Bref, tout ça c'est des images qui datent et c'est ça qui est un peu décevant, c'est que encore une fois, j'ai envie de dire, il y a un imbroglio de communication qui fait que on découvre des vieilles images, ces fameuses images qui avaient fait tant parler pendant la Gamescom parce qu'il n'y avait pas d'expression faciale, on le voit actuellement.
Et on est
connu. Il y a Poufi qui est un peu en boucle avec la vidéo. Si vous êtes premium,
ouais, Poufi, ça va.
Il y a des trucs qui le.
Il a perdu là.
Je ne t'autorise pas.
Remuer le couteau dans la plaie.
Il est mort de rire. J'ai jamais entendu Poufi se marrer comme ça.
Poufi.
Là, il est en train vraiment de se marrer comme une baleine.
Bon Pifou, arrête, merde.
Tout ça pour dire que. Bah, du coup, la déception était grande parce qu'on n'a rien découvert de neuf.
Je préfère un
alors,
coup, moi.
De ce qu'on a pu savoir, c'est que c'était absolument indépendant de la volonté de Shibuya Productions qui avait certainement prévu autre chose. Et même, on peut vous le dire, c'est ce qui a été dévoilé lors de ce Magic n'est pas ce qui aurait dû être dévoilé initialement. Concernant les raisons voilà.
Mystérieuses,
nébuleuses.
On
ne peut pas en dire plus, malheureusement. Mais
je trouve ça un peu scandaleux, tout ça.
Le fail, c'est un peu, bah, encore une fois...
Il y a un problème de communication autour de Shenmue 3.
Il y a un petit problème de communication autour de Shenmue
3. Parce que là, c'est du matos qui date du début d'année 2017.
Bah, si tu veux, pendant la Gamescom, Yu Suzuki m'avait dit que quand je lui avais parlé des animations faciales, etc., il m'avait dit oui, mais vous savez, la vidéo qu'on dévoile là, la Gamescom, est vieille de 6 mois, si mes souvenirs sont bons.
Ouais, c'est ça.
Donc techniquement, on est encore 6 mois plus tard. Donc c'est
donc
du vieux.
Voilà,
c'est du vieux matos. Et ce qui est certain, c'est que Shenmue a une démo jouable actuellement.
Il est plus avancé que ça, mais ils peuvent pas le montrer en fait. Tout le
donc on peut présumer qu'on se réserve pour la suite hein. On sait qu'il y a l'E3 qui arrive au mois de juin, donc probablement qu'on aura plus de nouvelles à l'E3. En tout cas, donc les 4 images qui ont été dévoilées montraient 2 personnages qu'on connaissait déjà, si je ne m'abuse, et 2 nouveaux personnages qu'on voit là,
dont un maître de Kung Fu,
un maître ninja,
qui paraît-il est un peu
excentrique.
Voilà. Alors lui qui a vraiment cette drôle de tronche, on l'avait déjà vu.
Ah, j'adore sa tronche. Ouais.
C'est un mid boss, nous a annoncé Yu Suzuki. le personnage que vous voyez avant, qui était une nana qui travaille dans un temple, hein, qui a été décrite par Yu Suzuki comme un garçon manqué, voilà, pour sa personnalité. On voit. Cela dit, que on est vraiment dans le ton Shenmue, quoi. Alors, je sais pas, les gens aiment se moquer à la moindre occasion. Bah, je trouve que ces screenshots,
Ça a l'air d'être respectueux dans le design.
Tout à fait. Moi, je suis assez Shenmue. Convaincu par ces screenshots. Et là, ce qui va pas, c'est le design du personnage plus que le rendu. Voilà.
Il y a une image que j'aime beaucoup.
Et
qui me fait beaucoup penser à notre.
C'est celle-là.
Non. L'autre.
Bah ce jeune personnage, apparemment.
Ah ouais, là j'ai l'impression que c'est nous deux quand on était à la Gamescom et qu'on a fait la photo sous le cerisier, tu te rappelles?
Et moi je suis à gauche et toi à droite.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, tu vois, c'est vraiment un regard d'ensemble dans la même direction.
Ouais. Ah,
non, mais moi je trouve ça vraiment. Je trouve ça joli et dans le ton de Shenmue. Et d'ailleurs, Romain me disait que lorsque l'image de la jeune fille a été dévoilée, eh bien, les gens ont applaudi dans la salle parce qu'ils retrouvaient véritablement.
On se demande pourquoi ils ont applaudi, mais bon, je sais pas.
C'est vrai que c'est un peu lugubre quand on nous dit des choses comme ça.
Ah non,
je ne veux pas croire,
ils ont applaudi.
Non, alors pourquoi? Parce que c'est le premier screen qui a été dévoilé, celui-là. Donc c'était le premier screen qu'on voyait depuis longtemps. Donc une partie pour ça. Et surtout parce qu'en fait, quand on voit ces images, on retrouve vraiment le rendu du Shenmue original, quoi. L'ambiance, l'atmosphère du Shenmue original. Voilà.
Ouais, bah, moi je trouve qu'il y a une bonne bouille. C'est petit.
Bon, malgré tout, ça reste un fail parce que c'est décevant de s'attendre à du gameplay, à des progrès, et puis à découvrir finalement 4 nouveaux screens. Shot et simplement une vidéo version longue qui date d'il y a 6 mois voire plus. Voilà.
T'as vu ses cheveux, il y a le S de Shenmue.
Ouais. Voilà. Je sais pas ce qu'il fait, mais il nous montre les détails.
Excellent.
Voilà.
T'as vu comme Matt Groening dans les cheveux d'Homer Simpson.
T'es sûr que c'est pas le S de Senna plutôt?
Ah, peut-être.
Ouais, il me semble que c'est ça.
Bah, va mal finir alors. Je dirais comme ça.
Tu penses qu'elle va finir dans le
Donc quel dommage, hein, pour vous dire, initialement, on avait prévu d'avoir Romain avec nous dans ce podcast pour nous parler de tout un tas de trucs qu'il aurait pu apprendre, voir, jouer lors de ce Magic.
Et au final, il est au fond de son lit en train de pleurer.
Il est dans son lit en train de pleurer.
Voilà. Alors. Inconsolable. On ne sait pas si on le reverra.
Voilà ce que ça fait comme effet Monaco, malheureusement. Ces trajets en avion, ces déplacements en voiture. Alors qu'on pourrait être en hélico.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Ou en Porsche Carrera.
Non, les journées ne seraient pas d'hélico, c'est pas vrai. Si
et vous, qu'en pensez-vous?
Bah écoute,
de ces screens.
Moi, celui-ci me fait marrer. Voilà, je te dis, mais c'est juste les pauses.
Non, si on parle que des screens à proprement parler, c'est magnifique.
Ouais, c'est contraire. Propre, je sais pas.
Puis après, le problème de Jeanne Mou, c'est qu'il faut voir tout ça en mouvement, quoi. C'est toujours pareil.
Voilà.
On sait que c'est un petit peu ça.
Parce que des screens pipotés, on sait ce que ça fait.
Oui, parce que c'est évidemment que c'est beau.
Je ne voudrais pas parler d'un jeu que j'ai testé et dont le test est paru ce week-end, qui en screen paraissait plutôt pas mal, mais qui en action a l'air d'être un jeu de.
Pasteur, c'est ça?
Voilà.
D'accord.
On n'en parle pas pendant ce podcast, mais.
Exactement.
Voilà.
Mais
c'était un bel exemple de. En screen,
et ben voilà, qu'en disent les gens sur le chat, ma petite Ève?
Hein?
Bah, t'avais Christophe qui disait ça dessert complètement la hype du jeu, et Fabrice, il trouve que c'est de très jolis screens. Voilà,
bon.
Voilà.
Bah, merci Christophe et Fabrice.
C'est très gentil. Et après, les gens, ils attendent surtout de voir notre avis sur Assassin's Creed et Metal Gear.
Et ah, ils sont impatients.
Les gens ne demandent pas un peu plus de chiffres à Traz par hasard.
Vous voulez pas des chiffres en plus?
Les Français veulent des chiffres, monsieur Nibi.
C'est un peu notre François Langlais, Traz. Ça y est, il arrive. Voilà, c'est le monsieur économie de Gameblog.
Ouais, on devrait le faire rentrer de manière dramatique comme ça sur le plateau. Tu sais, il s'assoit comme ça.
Il se met en face d'un politique comme ça. Ouais. Alors j'ai les chiffres.
Mais il y en a trop.
Allez voir sur le site.
Pas clairement.
Bon, les oui, ils sont sur le site de toute façon.
Arrêtez, France 2 va nous le piquer.
Bon, on va passer au premier thème de ce podcast. Donc, puisqu'il nous est demandé à cœur et à cri par. À cœur et à cri par nos lecteurs qui sont sur le chat de la Gameblog TV en train de discuter avec Eve. Et bien, on va commencer avec Assassin's Creed Origins. On revient donc sur.
Quel jeu extraordinaire!
Pourquoi? Parce que il y a deux choses dont nous allons vous parler. À commencer par. Le Discovery Tour.
Tout à fait.
Qui est une idée lumineuse.
Absolument géniale, qui a été annoncée il y a quelques mois. Et finalement, ce mode, hein, parce que c'est une sorte de mode de jeu, est sorti. Et donc, on a pu. Et vous avez tous pu, si vous avez Assassin's Creed à la maison, il suffit de mettre le jeu à jour vers la version 1.3, si je dis pas de bêtises.
Exactement. Absolument.
Et à ce moment-là, dans le menu de base, vous avez cette option Discovery Tour qui apparaît. Et alors, pour le décrire rapidement, parce que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Je le fais.
On peut mettre à jour, mais si on ne l'a pas, si on n'a pas Assassin's Creed Origins, si on peut l'acheter sur PC.
Voilà.
Discovery Tour.
Après, il faut avoir un PC de jeu, évidemment, hein, parce que ça tourne avec le moteur du jeu. Il est gourmand, comme on le sait. Hein,
c'est un vrai jeu.
C'est une goulue. Et à ce moment-là, effectivement, si on n'a pas le jeu du tout, on peut jouer uniquement au Discovery Tour sur Steam, si on est juste intéressé par l'aspect.
Pour la
par
l'aspect historique. De 9,99€.
Non,
19,99€.
Exactement, 20€. Alors, pour décrire rapidement ce que c'est, les développeurs d'Assassin's Creed, vous le savez, dans chaque jeu s'intéresse à une période historique différente. Et puis à chaque fois, on leur disait waouh, c'est incroyable, on peut se balader dans le Paris de la Révolution, on peut se balader dans le Londres de la Révolution industrielle, etc. etc. On voudrait l'utiliser à l'école pour montrer des choses, c'est tellement véridique, tellement historiquement inspiré, etc. Et donc, cette fois, ils ont franchi le pas et ils ont proposé ce mode Discovery Tour qui n'est rien d'autre que l'accès à tout ce qu'il y a dans le jeu, hein, c'est-à-dire la map entière, on peut aller où on veut, faire ce qu'on veut, etc. Avec la désactivation de tout ce qui est combat, quête, tout ce qui pourrait se mettre en travers de votre chemin pour l'exploration de ce monde.
C'est juste un musée géant, finalement.
Voilà. Et en plus de l'explorer comme ça, librement, y a surtout ce qu'ils appellent des visites. Et les visites, c'est quoi? Ça dure entre 5 et 20 minutes. Et en gros, on vous emmène, par exemple, dans...
la grande pyramide de Gizeh,
à l'extérieur de la pyramide de Gizeh, au grand sphinx, etc. Et on vous fait des petites visites guidées, comme dans un musée avec un audio guide. Il y a une personne qui vous parle et qui vous explique avec des petites stations, c'est-à-dire des petits points sur un chemin. Là, vous voyez ci, vous voyez ça, et puis t'apprends plein de trucs. C'est assez génial.
Et tu peux visionner d'ailleurs pas mal d'œuvres d'art puisque tu as des sculptures, des peintures. Qui ont été numérisées, qui sont accessibles en haute définition.
Tout à fait, c'est ça qui est vraiment bien
fait. Manipulable à souhait, c'est quand même super chouette pour ceux qui ne peuvent pas forcément aller au musée.
C'est ça qui est génial, c'est qu'en plus d'être un voyage dans le passé et dans une région donnée, à savoir l'Égypte antique au temps de Cléopâtre, eh bien,
À chaque petite station, quand il y a un truc intéressant à montrer, donc une peinture qui représente cette époque, un plan de pyramide, etc., et ben vous pouvez appuyer sur un bouton, l'afficher, effectivement, comme disait Thomas, et là, vous avez en plus une visite dans les différents musées du monde, parce qu'on voit des pièces du Louvre, des pièces du musée d'histoire naturelle de tel pays, etc. Enfin, vous avez un véritable tour du monde des musées qui proposent des pièces intéressantes sur l'Égypte antique.
À Turin,
à un moment donné,
j'en avais vu un personnellement.
Pardon ?
À Turin, il y en a un qui est très bien.
Oui, voilà. Mais il y a partout des objets de l'Égypte antique. Après les.
Non, sur l'Égypte.
Les trucs, on va dire les endroits les plus riches en informations et en pièces, c'est le musée du Louvre et bien
le
sûr
British Museum,
et bien
le sûr musée le British, Chicago. Il y a énormément Museum, de partenariats qui ont été noués.
Je vois que j'ai l'impression qu'on peut diriger Cléopâtre, César, etc.
Ouais. Alors en plus pour le fun. Ouais. En plus.
Trace sans micro. La puissance n'est rien.
Non. En plus, pour effectivement, tu peux, t'as plein de petites options. Donc, c'est nous, l'aigle est toujours disponible. Donc, on peut à tout moment décoller et depuis les airs choisir sa prochaine visite guidée en allant à Alexandrie, puis en allant à Gizeh, etc. Tu peux les activer directement depuis l'aigle et puis profiter du paysage.
Attends, sur PC, c'est vendu séparément ?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui, tu peux l'acheter séparément sur PC. Mais si t'as le jeu, forcément, mise à jour gratuite, tout ça.
Ah oui, et donc, comme tu disais, on peut choisir d'incarner un personnage différent. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre les personnages contemporains, à savoir la nouvelle héroïne du temps présent, le père de Desmond, etc. Que tu peux incarner.
Spoil ?
Non, non.
Bah, si, grave.
Bah, dans ce cas-là, quand
tu
lances le jeu,
je me casse.
Ça y est tout de suite.
Tu m'as spoilé, le jeu est sorti en octobre.
Tu m'as spoilé l'Égypte antique,
tu m'étonnes.
Et donc, tu peux incarner qui tu veux. Voilà, et puis tu peux te balader librement, etc., etc. Donc, c'est vraiment super bien fait. Alors, un, c'est une super idée.
Ouais.
Deux, c'est gratos. Et trois, c'est super bien fait, super intéressant. Il y a des visites très courtes, de 5 minutes, sur des petits sujets rapides. Et puis, t'as des visites très longues qui sont d'ailleurs divisées en plusieurs visites.
Plus
par exemple pour tout ce qui est la grande pyramide de Gizeh, tu vas t'intéresser à la nécropole de Gizeh d'abord à l'extérieur, tu vas avoir des petites visites à l'extérieur, tu vas pouvoir t'intéresser au sphinx, il va y avoir une petite visite pour le sphinx, et puis il va y avoir ensuite l'extérieur de la pyramide, puis les parties hautes et les parties basses de la pyramide, puis les théories qu'il y a autour de la construction des pyramides, de ce qu'on tu vas avoir un éclairage aussi sur ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on sait toujours pas.
Non, ça parle pas d'extraterrestres.
Tu vas comprendre même des choses hyper intéressantes.
C'est pas intéressant.
Comme par exemple le fait que à l'époque de Cléopâtre, les gens savaient moins de choses que nous aujourd'hui sur les pyramides, parce que pour eux c'était extrêmement lointain. Les pyramides ont été construites environ 2200 ou 2500 ans, je crois, avant Jésus-Christ. L'histoire là se passe 49 ans avant Jésus-Christ, elle commence 49 ans avant Jésus-Christ, donc à ce moment-là c'est un truc antique déjà,
déjà très vieux,
à moitié détruit, etc., très mystérieux et tout ça. Et donc aujourd'hui avec tout ça, on a fait des découvertes encore ces 30 dernières années hyper importantes.
Bah, même l'année dernière les nouvelles chambres qui ont été découvertes,
tout à fait.
Ils ne sont pas allés encore.
Ils ont sondé seulement.
Mais
d'ailleurs, ils en parlent dans le jeu à un moment donné.
Ils
expliquent dans le jeu comment ils ont découvert la cavité et qu'on n'en sait toujours pas plus. Donc c'est là que.
Bah, parce que s'ils essaient de fouiller, ils risquent de faire s'écrouler beaucoup de choses, si j'ai bien compris.
Il faut qu'ils y aillent petit à petit.
Alors ce qui est vraiment génial aussi, c'est que donc tout est divisé en 5 thèmes, comme on le voit à l'écran: Égypte, pyramide, Alexandrie, vie quotidienne et. J'ai oublié. Le dernier.
C'est pas grave.
Il y a 5 catégories. T'as Poufi, il va revenir en arrière, c'est trop bien. Les Romains,
tout à fait.
Merci.
Les Romains.
Et donc, à chaque fois, tu vois, ça fait 75 visites guidées en tout, de 5 à 20 minutes. Donc, il y a vraiment du contenu. Hein. C'est pas de la rigolade. Et c'est super intéressant parce que parfois, comme on le voit à l'écran d'ailleurs, t'as des morceaux de la visite qui s'intéresse non pas à l'aspect purement historique de la chose, par exemple le sphinx, comment il a été construit, ce genre de choses. D'un seul coup, tu as des trucs qui apparaissent en bleu et qui sont en fait des anecdotes de développement. Et où on s'arrête et on se dit voilà, donc vous savez ça sur le sphinx, et ben voilà, on va vous expliquer pourquoi nous, développeurs d'Assassin's Creed Origins, on a représenté le sphinx de telle façon, à savoir avec de la peinture rouge sur le visage, Et rien ne dit historiquement forcément qu'il y en avait, mais par déduction, comme le font les historiens, tu sais, les historiens ils savent pas tout sur l'Égypte, et donc t'as des théories, t'as des théories qui sont plus ou moins admises par tout le monde, d'autres qui sont plus différentes, etc. Bah eux ils ont dit voilà, le Sphinx quelques centaines d'années avant il aurait été restauré avec de la peinture, et ce qui explique que même s'il y en a plus du tout aujourd'hui, et bah à l'époque de Bayek, donc autour de la naissance de Jésus-Christ, voilà, et bah là on avait on en a mis quoi, voilà, tout simplement. De la même manière, ils expliquent aussi certaines libertés qu'ils ont prises. Et là, je te fais la transition.
Ouais,
parfaite
mais attends, non, avant la transition, je veux savoir pour le nez du Sphinx, est-ce qu'ils ont l'explication que oui, on oui, connaît tous sûr. Avec
c'est,
Obélix.
C'est Obélix. C'est Obélix.
Voilà, merci. Voilà. Bon, ça va.
Ils ont suivi.
J'ai peur qu'ils oublient ça.
Bien sûr, c'est Obélix.
C'est officiellement testé. Hein.
Oui, ouais, mais bien sûr.
Ouais, bah, je crois que je l'ai lu dans un livre d'histoire. Je crois que c'était Astérix et Cléopâtre.
Exactement. Juste petite question avant qu'on passe justement à certaines libertés.
Mais c'est marrant, mais le nez, on sait pas non plus exactement. Et donc, ils expliquent quelles sont les théories les plus plausibles, etc.
Donc, toi, ça t'a passionné ?
C'est génial. C'est vraiment génial.
Voilà.
Si on a Assassin's Creed, c'est impossible de pas faire ça.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as testé avec tes enfants aussi ?
Alors malheureusement,
c'était quelque chose qui pouvait les captiver.
Non. Alors c'est sûr que ça va captiver.
Ils préfèrent la Seconde Guerre mondiale, en fait.
Notamment mon fils, mais je l'ai pas pu le faire parce qu'ils sont en vacances. Loin de moi. Donc dès qu'ils rentrent, je leur montrerai.
D'accord. Mais tu sens un potentiel dans les écoles qui.
Ah bah c'est plus qu'un potentiel. C'est il a été en partie conçu.
Bah oui. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo.
Pour pouvoir être montré dans les écoles. D'ailleurs, Ubisoft disait souvent que l'idée du Discovery Tour vient de là. Ces professeurs qui montraient la Révolution française à travers Assassin's Creed Unity dans les écoles.
Et qui se faisait massacrer par Mélenchon derrière.
Et voilà, ils ne pouvaient pas rentrer dans le château Saint-Ange parce que il y avait. Qu'est-ce que je te raconte ? Là, je suis en Italie maintenant.
Oui.
Tu ne peux pas rentrer, par exemple, dans tel endroit, je ne sais pas, les Tuileries,
la Bastille,
etc., parce qu'il y a des gardes. Alors que là, évidemment, dans le Discovery Tour, tout est désactivé, toutes les portes sont ouvertes et tu peux aller où tu veux.
Et ce qui est d'ailleurs une bonne chose parce que, quand même, Assassin's Creed Origins The Base, c'est 18+.
Tout à fait.
Le mode Discovery, on est obligé de s'adapter pour que ce soit quelque chose que les enfants
accessible à tous.
C'est de ça qu'on parle maintenant.
Ouais.
Voilà. Donc effectivement, alors
on peut rien vandaliser par contre dans le truc, non.
On peut rien vandaliser. Non, mais tu rigoles, mais c'est une bonne question.
Le vandalisme existait à l'époque. Hein.
Bah oui.
À l'époque de la Rome antique.
Tout a été pillé.
D'ailleurs,
mais à l'époque des
la série Rome, par exemple, le traitait très bien. Il y avait des bites sur les murs et tout. Enfin, c'était aussi. C'était même pire qu'aujourd'hui.
On n'a rien inventé en fait.
Les hooligans romains. Mais absolument. Rien inventé.
C'est pas si con
en particulier, n'a rien inventé. Mais c'est
pas si con comme
que
question. Je disais parce que toutes tes facultés d'escalade, par exemple, sont toujours là. Tu peux grimper partout,
ouais,
etc.
Ça, c'est bien, ça,
appeler le cheval, c'est toujours possible. Incarner l'aigle, c'est nous dans les hauteurs, c'est toujours possible. Mais
si tu
ne peux plus taper les gens, tu peux pas utiliser d'armes.
Et si tu jettes du haut d'un truc,
et tu ne meurs pas.
Mais tu tombe
oui, tu peux tomber du haut. Alors j'ai pas fait du phare d'Alexandrie, si tu veux,
mais t'as sauté d'une certaine hauteur et
voilà, j'ai fait depuis un endroit où je sais que je serais mort dans le jeu.
Mais alors tu tombes comment? Tu tombes les deux pieds sur le sol?
Non, on s'en fout, merde.
Mais non, c'est vachement important.
Quand t'as sauté, c'était ça, t'as atterri sur les pieds.
Ouais, non, parce que c'est vachement important. Attends, les gamins après ils s'amusent,
ils vont sauter par la fenêtre.
Moi je vais sauter. Regarde, il est mort, il s'est brisé la nuque et tout. Bah non, mais sérieusement.
Oui, d'accord.
Sérieusement, à nouveau dans le 16 plus ou le 18 plus quand c'est comme
ça. C'est un gameplay inclusif, attention.
OK.
Donc,
comme l'écriture.
Bah,
oui,
pour
alors,
continuer là-dessus,
il y a
des choix qui ont été opérés par les développeurs.
Oui, alors là, je m'inscris en faux.
Occupe-toi de tes chiffres.
Alors, justement, on va donner des chiffres là.
Alors, c'est vrai que là, alors, ça va peut-être faire parler, Eve. Tu regarderas Alors, t'as déjà
quelque chose. Juste que pour l'instant, les gens, tant qu'on n'a pas parlé de la polémique, les gens, ils trouvent ça super cool. C'est un bon outil pédagogique. Voilà, même. Il y en a qui voudraient des DLC en plus sur le mode Discovery Tour.
Voilà. Bah, ils devraient le faire sur chacun des assassins.
Alors voilà, le premier truc que je me suis dit, et je crois que bon, je suis pas le seul au monde, on a dû tous se dire ça, en tout cas tous.
Non, je t'ai copié en fait.
Voilà, tous ceux qui ont déjà joué à un Assassin's Creed n'importe lequel se sont dit waouh, mais il faut absolument faire ça, revenir sur tous les anciens Assassin's Creed et nous faire des cours magistraux sur. Bon, c'est pas des cours magistraux, hein, c'est des trucs quand même très courts, etc. Je disais ça pour rire, mais nous apprendre des choses sur la Révolution française,
les croisades,
sur les croisades,
la Révolution la guerre de sécession
et la Révolution américaine.
Est-ce que visuellement ça fascinerait autant que ça?
Déjà l'Égypte antique ça fascine
beaucoup. Je trouve que la Révolution
Unity
française
est hyper solide.
Oui, mais
solide,
est-ce que ça fascinerait pas autant que ça? Je suis pas sûr parce que là tu vois déjà. Alors, des... visuellement c'est une tuerie absolue.
Mais Unity il était déjà utilisé à des fins d'illustration dans des documentaires.
Ouais, ouais. Unity je pense c'est le deuxième.
Unity
c'est celui en France. C'était même de la propagande anti Robespierre. Je me rappelle parfaitement.
Bien sûr. D'ailleurs Mélenchon.
Ça c'est quand ça rentrait dans le giron politique. Mais non, mais même avant ça il était utilisé pour illustrer justement des documentaires sur la Révolution française. Avant même que voilà ils annoncent ce truc là.
Mais donc il y a forcément un parti pris quoi, parce que quand tu pars dans un dans des théories, des machins comme en Égypte,
non, mais
pourquoi il y aura pas de théorie aussi
il y a quelques contresens historiques dans les autres aussi, mais parce que ils s'en sont jamais cachés non plus.
Tiens, les livres d'histoire aujourd'hui, peut-être que dans 5 ans, ils n'auront plus rien à voir avec ce qu'on sait habituellement.
Bah,
il y a plein de gens qui disent que les livres d'histoire, il faut complètement les réinventer parce que
si ça prend la tournure que prend Assassin's Creed Origins, oui, c'est possible.
Oui, d'ailleurs, j'ai vu sur des forums américains un mec qui avait qui avait pris une photo d'un livre d'histoire a priori pour les enfants aux États-Unis.
Mais
oui, c'est pour ça.
Non, je l'ai pas vu, mais
alors je sais pas si ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on sait nous. Ça doit pas être le cas, c'est pas possible, ça doit pas être validé par l'éducation nationale américaine.
Tu peux avoir beaucoup de liberté là-bas.
Oui, c'est ça.
Non, mais là c'était grave, ça.
C'était genre l'école mormone.
Ils expliquaient aux enfants. Alors quand les migrants européens sont arrivés sur le sol américain, les locaux sont gentiment allés s'installer dans des dans d'autres pays, dans des réserves.
Alors qu'ils ont juste massacré, mais c'est tout.
Tu sais, c'est genre oui, ça s'est super bien passé.
On va vous laisser la place. Et on va se foutre par là-bas.
Ah bah merci d'être venu.
Vous êtes là, bon, on va partir.
Installez-vous, allez-y. Tenez, on vous laisse une bière dans le frigo. Allez, on va aller à l'ouest.
Nous, on s'en va.
Ça corrobore une fois de plus l'expression qui dit que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Là, c'est une fois de plus le cas.
Bon, alors c'est la transition parfaite parce que pourquoi j'ai vu cette image-là, c'est parce qu'il y a eu des petites polémiques qui sont nées justement suite à la sortie de ce Discovery Tour. Pourquoi ? Eh bien, justement pour ces différentes petites choses qui font que Ubisoft a clairement énoncé dans certains dans certaines de ses visites qu'ils avaient pris des libertés par rapport à l'histoire avec un grand H.
Pumo, il a écrit « Peut-on faire tiep avec l'histoire ?» Moi, je
lis. Oui, c'est ce que j'ai écrit, absolument.
Alors, Poufy va nous montrer notamment une image parce que c'est
qui fait bien tiep.
Voilà, qui se trouve dans qui se trouve dans le tour l'éducation Alexandrie.
Alexandrie.
Station 3/3, avec un petit texte qui nous dit « Ici, on peut voir des garçons et des filles suivre un cours dispensé par un des recteurs de l'époque. Notre équipe a choisi d'inclure des élèves des deux sexes dans l'univers du jeu. » Si cette présentation est contraire à la réalité historique, l'équipe a préféré privilégier dans le jeu une approche inclusive, rejetant le sexisme historique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et ça a fait hurler évidemment pas mal de gens.
C'est normal, non?
Ça veut dire
donc gameplay inclusif.
Ça veut dire que dans un jeu qui a plus ou moins quand même vocation à être réaliste historiquement, Ubisoft dit voilà, dans Assassin's Creed Origins, on a décidé parce que on veut pas appliquer on veut pas dépeindre le sexisme historique tel qu'il était et pour pas choquer les gens en sous-texte.
C'est surtout ça.
Voilà.
Pour pas créer de polémique.
On a privilégié
dans l'air du temps,
on a privilégié de réviser l'histoire entre guillemets et de dire et de montrer ces cours qui étaient dispensés à la fois des garçons et des filles.
Franchement, alors que tout le monde sait que c'était pas le cas.
Il y a de quoi être ravi parce que ça veut dire que le prochain Assassin's Creed, les gens se tueront, la violence sera représentée par des bisous. Ça sera ça en fait, tu joueras d'accord. À chat, tu feras tiens, hop, chat, t'es mort. Ah bah oui, OK, je suis mort, alors j'arrête.
Non, ça c'est
je veux quand même, c'est quand même complètement fou de faire
comme dans
comme
le
ça.
Film Pan, tu sais, quand ils se tirent dessus, ça fait des fumées
Pan,
des couleurs.
Ouais. Je veux dire, on a le droit de représenter la violence
sous
toutes ses formes.
Moi, je suis pas d'accord
avec
ça, je trouve ça complètement
ridicule.
Et
quand la réalité historique nous plaît plus, on dit oh bon non.
Bah, on la change,
on va la changer,
on la modifie.
Moi, je suis pas trop d'accord. Je comprends la démarche.
Mais en fait, moi,
personnellement, je comprends la démarche.
Non, mais je comprends même pas la démarche.
Parce qu'ils veulent montrer quelque chose de.
Oui, mais attends, mais on parle d'un truc d'il y a 3000 ans là.
Mais
c'est quoi l'intérêt?
Mais oui, mais après, le truc, c'est. Enfin, non, la réalité historique est comme ça, point.
Je trouve que ça.
C'est une certaine négation de la phallocratie en fait qui a dominé pendant très très longtemps et c'est comme si. Enfin. Pour un
la
esprit
phallocratie.
Qui... bah oui la bah phallocratie oui. la domination
patriarcat,
masculine
quoi.
Du patriarcat tout ce que tu veux c'est quand même
c'est pas parce que le passé a existé
que tu
présent, que du coup dans le présent ça va chier ça va déborder dans tous les sens quoi.
Exactement ouais, tout à fait.
Nous on est au courant, on sait que ça s'est passé comme ça, bah on agit aussi en conséquence tous les jours.
Mais surtout que c'était pas un truc vraiment super choquant quoi. Je pense
mais
que
oui,
personne n'aurait remarqué
pas.
Qu'il y avait que des garçons dans le oh remarque tu sais pas.
Non mais en plus c'est historiquement avéré,
juste
avec que les garçons des classes supérieures qui pouvaient avoir le droit à une éducation à ce moment-là.
Mais je pense que c'était moche, c'était
Il faut le
dénoncer,
c'est comme si tu disais les Amazones en fait c'était que des mecs. Bah ok. Bah non.
Il faut inclure les mecs, oui, pourquoi pas.
Oui, c'est ça. Pourquoi on dirait pas ça dans ce cas-là ? C'est complètement débile. Parce que moi, pour moi, c'est la porte ouverte à vraiment n'importe quoi, là. Si on commence à modifier l'histoire comme ça, c'est bon, tout le monde va faire sa propre histoire.
Ils ont quand même.
Histoire. Non, mais je sais qu'ils ont quand même suivi 99%
le truc. Ils le disent. Au moins, tu vois.
Non, alors le truc, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que.
C'est pas inclusif sans le dire, quoi.
C'est quelque part, c'est quelque chose qu'on a sous les yeux depuis donc, le mois d'octobre dernier, avec Assassin's Creed Origins, quand ils jouaient et que t'allais à Alexandrie, tu voyais les cours dispensés à des garçons et des filles. Sauf que personne n'a fait.
Forcément attention.
Attention à ça, et personne ne l'a relevé. Là, aujourd'hui.
Donc, sur la représentation, par exemple, sur des poteries, des trucs comme ça.
Non, mais là, ça, c'est juste une image d'illustration. Mais là, aujourd'hui, il y a Discovery Tour qui sort et qui livre des anecdotes de développement et qui dit voilà, vous voyez là, il y a des filles et des garçons. Bah, en fait, c'est une liberté qu'on a prise par rapport à l'histoire. C'est pas qu'ils font un monde honorable, mais c'est qu'ils cherchent pas à le cacher du tout.
Non, bien sûr.
Déjà, ça, c'est la première chose. Après, moi, je trouve ça complètement ridicule parce que ça aurait pas choqué. Il y a peut-être des trucs qui auraient plus choqué, notamment, t'as raison, dans la violence, dans le machin, etc.
Bah, c'est surtout l'autre partie, on va dire, aménagée du Discovery Tour qui est.
Et alors, mais par exemple, quand tu fais la visite de la pyramide de Khéops, donc la grande pyramide de Gizeh, il y a un moment où tu peux visiter dans le Discovery Tour les salles souterraines. Tu sais, sous les pyramides, il y a un angle comme ça, il y a un couloir qui part, il y a une salle souterraine. Et d'ailleurs, celle de Khéops, on ne sait pas trop à quoi elle a servi parce qu'elle n'a pas été finie. Donc,
Autras doit le savoir.
Non, mais alors, il te parle des différents.
Vous méritez pas.
Des différentes options auxquelles on peut penser, notamment le fait que Khéops ait voulu être enterré en dessous, puis finalement a dit non, ça va être mieux que je sois en plein milieu de la pyramide. Voilà, donc ils auraient arrêté les travaux comme ça, peut-être. Enfin, mais en tout cas, cette salle mystérieuse, dans la réalité, elle part d'un corridor en descente qui fait plus de, je sais plus, 150 mètres, je crois, un truc comme ça, ou 50 ou 150, je sais plus. Enfin, il est très long.
C'est Trace qui a les chiffres.
Et dans le jeu, il faut demander à Trace les chiffres. Et dans le jeu, ils ont décidé de le raccourcir et de l'élargir pour des raisons de gameplay, pour des raisons de praticité, etc. Dans le jeu, etc. Donc là, ils le disent aussi. On a pris la liberté de ne pas le représenter exactement comme il était. Mais là, on va dire, c'est ce qui est pas choquant du tout, c'est que on comprend le fait de transformer un truc pour des raisons de gameplay, etc.
Entre l'architectural et le
ce qui est choquant, je trouve, dans ce cas précis des enfants,
merde,
c'est que on ressent en fait la frilosité des gens de notre époque dès qu'on touche à un sujet qui aujourd'hui qu'il n'était pas à l'époque et qui aujourd'hui peut être choquant, sur lequel il faut faire attention, on a peur de se piquer, etc. Tu dis allez, on va éviter les problèmes, on va mettre des garçons et des filles et comme ça on n'aura pas de problème.
Sauf que
qui aurait fait des problèmes à cause de ça? Et là, tu réfléchis. Et là, tu réfléchis à ce qui s'est passé à Kingdom Come, par exemple. Tu te dis, le mec a pas mis de noir dans son jeu. Apparemment, on pouvait en croiser. Bon, peut-être plus à Prague que dans la campagne où se passe le jeu. Mais le mec est taxé du coup de racisme. A priori, il est pas net dans le mec. Mais
oui,
bon.
Bien sûr, Daniel.
Je pense que Ubisoft a voulu éviter le problème. Mais quelque part, éviter le problème, c'est un peu. Une défaite, c'est un peu se résigner à donner raison à ceux qui cherchent des poules dans la tête, à tout le monde, avec une morale de 2018 qu'on voudrait appliquer à un jeu dépeignant des événements qui se sont passés il y a 2000 ans, etc. C'est un peu ridicule, en fait.
C'est exactement pareil avec l'autre point que tu voulais aborder, à savoir les statues. La nudité qui est couverte par des coquillages. on imagine bien qu'ils ont eu derrière l'idée de peut-être se. On connaît le système de classification aux États-Unis, le SRB qui par
en
rapport
France
à, la,
aussi,
à la nudité, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc on imagine bien qu'ils ont voulu éventuellement juste de ce truc-là. Et sauf que là, voilà, c'est exactement ce qu'on disait, c'est que tu capitules devant une instance de classification d'un pays en plus assez conservateur, mais qui est culturellement dominant. Et c'est un peu un problème, en fait.
Je trouve ce problème beaucoup moins choquant, moi, personnellement. Parce que j'arrive à le comprendre j'arrive pas à.
Je trouve ça super choquant aussi.
Non, je vous explique.
Parce que là, tu modifies carrément l'œuvre d'art originelle.
Oui, et le rapport à la nudité d'une société.
Exactement. Son opinion.
Non, vous voulez l'entendre trop, Julo, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Ah non, mais j'explique pas pourquoi. Bon, bref.
Vas-y, Julo.
Donc, pour expliquer d'abord aux gens, toutes les statues qu'il y a dans le jeu de base, donc dans Assassin's Creed Origins, n'étaient pas censurées de la sorte. Et là, pour le coup, c'est le contraire de ce qu'on expliquait avant. Là, c'est dans Discovery Tour qu'ils ont décidé de mettre des coquillages de pudeur sur les seins, les zizi, les zézettes, etc. Bon,
les zézettes.
Donc, on se retrouve avec des statues ridicule comme ça, donc couverte on cache les attributs avec des coquillages. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Assassin's Creed Origins a vocation à être historiquement effectivement plutôt proche de la réalité, etc.
Je croyais que t'allais dire de droite. Je
me disais non. mais par contre, il était 18+. Donc il était mature, etc. Donc pas de problème.
Pas de problème avec l'érotisme, la nudité
là,
et tout. Ouais.
En l'occurrence pour le Discovery Tour, le but c'est d'être montré dans les écoles et donc de ne pas avoir un PEGI 18. Mais d'avoir un PEGI 12 par exemple, etc. On parle de PEGI parce qu'on est en France.
Qu'est-ce qu'on
et en
apprend
Europe.
Qu'est-ce qu'on apprend
et donc,
ça, c'est vrai, quand les écoles vont l'ouvre, ils cachent leurs yeux.
Non, mais alors justement, comment fonctionne c'est quelque part, il faut mettre le doigt non pas sur Ubisoft pour ça, mais sur le PEGI.
Ah oui.
La façon de fonctionner le PEGI. Pourquoi
si le PEGI
sont parce que
ça, c'est tellement
PEGI, il pose des questions et tu réponds par oui ou par non.
Ah oui, okay, dès qu'il y a nudité.
Ah oui,
nudité,
oui.
Est-ce qu'il y a nudité? Oui, non. Allez, boum, 18. Non, pas 18, c'est 16.
16, ouais.
16. Bim. Et donc,
c'est
ridicule. Hein, donc quelque part,
c'est binaire en fait. T'as pas de curseur.
Bah, ça expliquerait
que culturellement le rapport à
moi personnellement
et de la Rome antique n'est absolument pas le même.
Personnellement, je sais pas ce qu'aurait dit la norme PEGI, mais
le SRB aussi. Hein.
Le SRB pour les États-Unis. Mais est-ce que la nudité d'une statue c'est la même chose que la nudité d'un personnage, etc. Évidemment non. Comme disait Traz, on croise des statues de ce genre dans tous les musées et même, j'ai envie de dire, dans toutes les rues. Des villes comme Paris et des villes historiques.
Et en
quoi.
Italie, on n'en parle
et
même pas.
Et en Italie,
bah oui,
etc.
Y a que ça.
Enfin, des nichons, t'envoies tous les 2 mètres à Rome. Et les enfants, que ça, sont pas interdits de circuler dans la rue. Là, le truc
non,
qui est vraiment.
Hein. Franchement, voilà. Les Romains, on les voit.
Non, mais le truc sur lequel il faut insister, c'est que pour ce sujet-là, c'est ridicule. On est tous d'accord et on se dit putain, mais dans quelle époque on vit?
C'est
ridicule.
C'est tout simplement un retour à il y a 20 ans.
Voilà. Mais le truc, c'est que là, en l'occurrence, je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre à Ubi sur ce coup, mais je pense parce que là ils sont prisonniers d'un système, au système en question qui est la norme PEGI et le SRB, etc.
Mais pourquoi pas proposer simplement l'option?
Parce que tu changes le PEGI quand même. Même si à l'option,
mais tu peux pas mettre
dans,
de PEGI.
Mais
donc,
tu mets un contrôle parental.
Tu te tapes le PEGI.
Non, mais tu es obligé de mettre un PEGI sur la jaquette.
Oui, bien sûr.
Tu mets
un contrôle parental.
Bon, enfin bref, on est d'accord, c'est complètement ridicule.
Bah, franchement,
après ça s'explique
en plus d'être anachronique
et je trouve que le problème d'avant, c'est-à-dire le fait de mettre des élèves garçons et filles dans un endroit d'Alexandrie où techniquement on enseignait qu'aux garçons, bah, je trouve au contraire c'est mieux de respecter la réalité historique et de pas avoir peur de critiques parce que tu l'as représenté de manière réaliste.
Oui.
C'est ridicule.
En fait,
c'est un choix ridicule.
Tu peux dire qu'il y avait des sociétés misogynes.
Ouais, mais donc on se laisse dicter en fait.
On préfère se laisser critiquer par les personnes qui suggèrent.
Oui, plutôt que par les gens
qui suggèrent que l'histoire c'est pas vraiment ça, que par les gens qui vont dire ah oui mais non politiquement c'est pas très correct.
Ouais, mauvais choix. T'as raison, tout à fait. Ça se limite à ce simple choix. Un mauvais choix.
Mauvais move.
Voilà. Je
d'ailleurs,
trouve
la
que
nana avec son oreillette, là, c'est pas très réaliste.
C'est un petit carton jaune adressé quand même au Discovery Tour qui reste malgré tout une expérience plaisante.
Faut absolument y aller, c'est génial. C'est génial. Bravo Ubisoft pour le.
Faites-le pour plein de trucs. Hein.
Voilà, faites-le pour tous les jeux, quoi. Et d'ailleurs, je crois que.
Je t'aurais posé la question du coup.
Ouais, tu vas nous parler effectivement de.
Du second DLC,
du
de
second
Curse
DLC,
of the Pharaohs.
T'en as profité pour poser une petite question.
Exactement, puisque c'était.
Quelle question
c'était le jour justement où Discovery devenait disponible sur à peu près toutes les plateformes. Et du coup, j'en ai profité pour leur poser la question que tout le monde se pose. Non pas est-ce que ça va sortir sur Switch, mais est-ce que vous allez le faire sur tous les autres épisodes qui ont pu sortir. Et la réponse officielle d'Ubisoft pour l'instant, c'est on ne sait pas. On va voir ce que ça donne. On va attendre les premiers retours justement des joueurs, des historiens, des professeurs, etc. Donc, en sous-entendu, peut-être que on s'y collera et qu'à un moment donné, justement, on va réviser les anciens épisodes de la série.
Et je pense que les retours,
pour proposer ce truc-là.
Les retours d'une manière générale sont dithyrambiques. Quoi.
Oui,
enfin, tout le monde trouve ça génial. Quoi.
Mais donc voilà, si ça vous plaît, faites-le aussi savoir parce que ça va peut-être compter justement dans le fait que ce soit appliqué à Unity, à Syndicate et éventuellement d'autres.
Et peut-être que vous le faites savoir à Eve tout de suite qui voulait intervenir il y a quelques
secondes. Oui, alors
secondes.
Qu'est-ce qu'on raconte
sur le chat, moustache.
Oui, bah, forcément, les gens, dès que ça a commencé à parler des coquillages et
des films,
<assez. rire> exactement. Bah, les gens ils trouvent en grande partie que ça gâche l'aspect premier du mode, hein, qui est le côté pédagogique.
Qui en particulier? Est-ce que tu as des noms?
Alors, il y a Christophe et tout, mais après, les gens, enfin, Christophe surtout disait que c'est intéressant parce que ça permet, ça donne envie après d'approfondir la recherche. Et juste d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui avait une petite question tout à l'heure, c'était Améron, qui se demandait s'il allait avoir un peu plus de contenu par rapport au Discovery Tour.
Ah, c'est pas prévu. Pour l'instant, il y a 75 visites guidées. C'est déjà pas mal, hein. Ouais. Je disais tout à l'heure, 5 à 25 minutes, je crois, chacune. Honnêtement, c'est déjà bien gavé de contenu. Hein. Après, c'est tellement intéressant que vous allez le dévorer comme un bon bouquin. Et donc, très vite. Et voilà, donc c'est pour l'instant rien de prévu sur du contenu supplémentaire. Mais franchement, vu la réussite critique et la réussite concrète hein, de ce mode, on peut imaginer qu'ils vont vouloir en rajouter, quoi, j'espère.
Bah très bien, rien d'autre Eve de ton côté ?
Non, c'était ça en général. Okay.
Et donc personne ne s'insurge, personne ne prend la défense soutient. Au contraire d'Ubisoft sur le choix de pas avoir.
Non. Enfin bon, je suis quand même pour le côté éducatif, mais bon, tu vois les commentaires, genre Jérôme il dit bien pensance 1, monde réel 0.
Ouais, ouais, mais c'est vrai. Mais non, mais on en discutait avec Thomas.
On est assez tous de cet avis.
C'était le fait que ça revenait vraiment à des années et des années en arrière pour les coquillages. À l'époque où on cachait les statues dans Castlevania.
Honnêtement, les coquillages sont pas ça très grave.
Où on mettait des vêtements supplémentaires sur des invocations dans un FF. Où on disait que dans les traductions aux États-Unis, t'avais pas le droit à de l'alcool dans les jeux. Donc du coup,
ils se
bourraient la gueule au thé. Enfin, tu vois, on revient vraiment à une époque qui était pas glorieuse.
C'est le puritarisme américain qui vient ici. Tout à fait. Ouais. Quelques années de retard.
Et les Simpsons l'avaient prédit. Hein.
Bien sûr, exactement.
Le David de Michel-Ange qui était affublé d'un jean pendant sa tournée américaine il y a 25 ans à peu près.
Camille donne toujours un exemple dans ces cas-là sur le changement dans je sais plus quel opéra.
Changement
dans Carmen, non, c'est pas ça ?
Oui, c'est Carmen puisque elle tue à la fin.
Voilà, changement de meurtre à la fin.
À la fin de l'opéra,
c'est,
ouais.
c'est plus la femme qui meurt, c'est l'homme.
Je trouve ça fantastique.
Et ça date de cette année, oui. Là, tu changes complètement le sens de l'œuvre. Effectivement, on en avait parlé, je crois, pendant le podcast sur Kingdom Come. Oui, ça date d'il y a quelques mois.
Oui, j'ai entendu.
Mais c'est un scandale.
Oui.
Non, c'est la parité, tu comprends. Non,
mais justement, c'est ça qui est intéressant.
C'est pas un changement de mise en scène, c'est un contresens total par rapport à la fin d'une œuvre.
Bah oui, non, mais tu touches pas à une œuvre comme ça.
Faut croire que si.
Bah voilà. Oui, visiblement.
Ok.
Bon, bah tu touches pas à mon Égypte antique.
En fait, tu touches à rien en fait. Hein,
c'est qu'aujourd'hui tout est permis.
Ouais. Je sens que même masqué, pareil, oui. L'éducation sentimentale ou Madame Bovary vont tout changer aussi.
Bah ouais, ça va être Monsieur Bovary.
Ouais, exactement. Ouais. Ouais, ça va être.
On change tout, merde, on change tout. C'est pas correct politiquement.
Non, c'est pas correct de s'attaquer à tout ça.
Quant
à
Bayek.
On va parler du DLC2 maintenant, Thomas, pour quelque chose d'un peu plus joyeux.
C'est vrai.
Tout à fait. Ah, la mort, c'est joyeux.
Alors, ça concerne la mort.
Et oui, tout à fait.
La mort mortelle ou
la mort de qui ? La mort de quoi ?
Alors, la mort, l'au-delà du panthéon des dieux égyptiens, puisque ce second DLC que j'ai pu essayer pendant presque 3 heures.
Ça, c'est flippant, non ?
Là, on est dans le fantastique totalement. Là.
Alors là, c'est, voilà,
non,
ça,
pas du tout, c'est comme
c'est
ça,
un
non.
DLC qui assume beaucoup plus, effectivement, le côté fantastique.
Tiens, lui, il existait. Hein.
D'Assassin's Creed Origins. Et de toute façon, vous allez très vite comprendre de quoi il retourne, parce que dès qu'on arrive en fait dans la ville de Thèbes, qui va être le point de départ de cette seconde extension, eh ben, on affronte en fait une espèce de Nefertiti revenue d'entre les morts qui vient sur le marché en fait et qui commence à zigouiller tout le monde. Donc le premier truc à faire, ça va être de combattre cette reine défunte,
cette entité,
et ensuite d'explorer évidemment la ville de Thèbes. On a une nouvelle surface de jeu comme on l'avait pour le premier, c'était autour du mont Sinaï. Là on est autour de la ville de Thèbes, mais on va finir à un moment donné, comme on le voit à l'écran, par arriver dans la vallée des rois. Et là ça change tout, puisque en suivant la quête principale, on va finir par justement explorer un petit peu le tombeau de Nefertiti. Et à un moment donné, au travers d'une ouverture de porte, comme nous le montre très justement Poufy, eh ben on va passer un portail, et là on va se retrouver dans l'Ialou, qui est donc le monde de l'au-delà pour les Égyptiens en fait,
avec les bateaux qui volent au-dessus des champs de blé.
Et alors là, voilà, c'est magnifique, on arrive dans un champ de blé. Il y a des créatures volantes, exactement comme on peut le dépeindre,
des harpies intenses
sur des vieux papyrus. Et bah là c'est complètement fantasmé, ne serait-ce qu'au niveau de l'éclairage.
Tiens.
C'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus clair, la musique t'accueille avec une espèce de lyre égyptienne. T'es vraiment dans un truc fantasmagorique, avec, comme le disait Julo, ces barques de passeurs qui voguent en fait sur les champs de blé, complètement dorés, etc. Et là où t'avais des romains avant qui te servaient d'ennemis pendant toute la campagne d'Assassin's Creed Origins, là tu as des clones d'Anubis en fait qui vont s'attaquer à toi.
Et des pharaons,
une explication, un lien avec l'histoire principale, ou c'est vraiment un truc à part,
c'est un truc what the fuck,
c'est un nightmare de
alors
de
en
Red
fait
Dead,
c'est dans la continuité d'Assassin's Creed Origins, ça se passe en fait 4 ans après la fin de l'aventure principale, donc à peu près comme le premier DLC, même si on nous situe pas encore si c'est avant ou après. Et comme en fait il y a des pharaons qui reviennent à la vie, il se passe quelque chose, donc Bayek en fait va devoir enquêter sur le pourquoi de cette résurrection
pas dans sa tête,
en fait.
Hein.
Pas de ce que j'ai vu.
D'accord.
Bah, moi, j'ai joué que 3 heures. On nous promet entre presque 15 et 20 heures à en croire Ubisoft de
jeu. C'est presque
une
extension.
Enfin,
Eux
essayent de le vendre en termes marketing comme une extension. C'est le discours qu'ils ont.
Donc c'est un très gros DLC.
Par rapport au premier, ça n'a absolument rien à voir. Le premier était très très court et globalement assez peu intéressant. Là, vous aurez plusieurs points en fait où vous allez passer du monde réel au monde de l'au-delà, dans lequel tout change un petit peu. Là, je vous parlais des ennemis qui sont des Claude Nadubis. Il y a aussi des scorpions géants. En fait,
j'aimerais qu'il
le
roi.
On les a vus
avec The Rock.
Enfin, on l'a vu.
Moi, j'ai pas vu le roi pour le coup, mais je n'ai vu qu'une des parties en fait de ce monde un peu fantasmé, parce que tu auras différents portails disséminés dans les 5 zones de jeu en fait de ce second DLC qui vont te permettre de te télétransporter quelque part dans le monde de l'au-delà et de rencontrer tout un tas de créatures complètement dingues.
Alors le truc bien, tu me disais aussi, c'est que on peut jouer sans avoir terminé le jeu.
Ah ouais, alors ça.
Alors moi ça m'intéresse, c'est pourquoi, parce que quand j'ai fait le test,
je
chez Ubisoft sur une version dont j'ai pas pu récupérer la sauvegarde. Et du coup j'ai recommencé le jeu chez moi, mais je l'ai pas reterminé une deuxième fois.
Ah bon.
Et je vais quand même pouvoir y jouer du coup. À ce DLC
oui, contrairement au premier, c'est... en fait celui-ci vous permettra de créer une nouvelle sauvegarde et vous fera démarrer directement au niveau 45, ouais. Voilà qui est le niveau nécessaire pour commencer en fait cette aventure là.
Putain, je suis au niveau 5 moi.
Donc c'est quand même vachement pratique pour le coup pour les gens comme toi qui n'ont pas eu accès à leur sauvegarde, ou pour ceux qui n'auraient pas encore fini le jeu et qui auraient envie de parcourir un petit peu ces étendues fantasmagoriques.
Ça sort quand déjà?
Ça sort le 13 mars.
Ouais, donc c'est
ça devait sortir le 6, ça a été repoussé d'une semaine, donc voilà, le 13 mars prochain. Ah bah peut-être, va savoir.
Ouais, ça doit être ça. Et ça, c'est un DLC Season Pass, hein, c'est pas gratuit, hein, contrairement.
Ah pas du tout. Ouais. Ça sera payant à l'unité. Alors on connaît pas encore le tarif. A priori, il sera plus cher que le premier qui coûtait déjà.
Mais c'est inclus dans le Season Pass. Si on a le
Mais
season
c'est
pass.
Évidemment inclus dans le Season Pass pour ceux qui auraient déjà craqué. En tout cas, visuellement, voilà, c'est charmant.
Ah,
ça
c'est beau,
envoie
hein,
vraiment du lourd. Ça m'a donné vraiment envie de me replonger dans le jeu. Là où le premier, c'était plutôt encore les mêmes choses, quoi.
T'as joué sur quelle machine?
Alors là, on l'a vu sur Xbox One X.
Ouais, c'est ce qui semblait, parce que chez moi, c'est pas aussi beau que ça. Hein.
Et encore, la capture était pas en 4K, même si le jeu l'était à la base. Donc
là,
voilà,
déjà,
ça fait quand même très très envie. On le testera évidemment au moment de sa sortie sur Gameblog. Mais en attendant, allez voir la vidéo des impressions que j'ai pu faire, parce que vous avez des visuels qui sont quand même vraiment vraiment top.
Super chiadé ou pas?
Eh bien, ça a l'air absolument ravissant. Mais de toute façon, ce jeu, il est magnifique. Hein.
Ouais. Mais là, il prend une ampleur.
Il y a eu tellement de bons jeux l'année dernière qu'il est un peu passé entre les mailles du filet des Gameblog Awards et de tous les
de
awards.
Fin d'année.
Mais putain, ce jeu, c'est impossible de pas y jouer. Quoi. Il est extraordinaire.
Bah, pour l'instant, j'ai réussi. Hein.
C'est vrai.
À pas y jouer.
Bah, il faut que
donc,
tu changes
possible.
Ça. Finalement.
Bah, j'ai toujours du mal aussi, mais il faut que je m'accroche.
Ouais, mais t'as commencé? J'ai voulu, j'ai pas.
Ouais, mais faut rentrer dedans.
Moi j'ai commencé, mais j'ai du mal à rentrer dedans encore pour l'instant.
Non, mais c'est. Enfin, je veux dire, tu t'en prends tellement plein la gueule.
C'est écoute.
Et puis il y a telle ambiance, et l'histoire est bien, la fin est super cool. Enfin,
le milieu est génial.
Super, vraiment un très bon Assassin's Creed en plus d'être un très bon jeu.
Très bien. On va laisser. Maintenant, la parole à Thomas à nouveau.
Ouais.
Parce qu'on va passer au deuxième thème de ce podcast.
Ça, il fait que parler, ce mec.
Et là, ça concerne un jeu qu'on a pas mal moqué quand même. Tu veux passer par Rêve d'abord? On va passer par Rêve d'abord. Mais elle a l'air tellement éteinte que.
D'internautes.
Non, mais juste les gens, ils le trouvent super joli.
Attends, essaye d'articuler, vas-y, va.
Ils le trouvent super joli, le DLC d'Assassin's Creed. Et je leur ai demandé s'ils allaient y jouer. Bah oui, plutôt. Là. Les gens, ils ont l'air plutôt.
Les gens sont chauds.
Ouais, les gens sont
cacao.
D'accord, très bien.
Vas-y, c'est parti pour le show. Metal Gear.
Ouais, donc on va passer à Metal Gear Survive, dont l'annonce nous avait fait quelque peu grincer des dents. C'était à la Gamescom 2016, si je ne m'abuse. On se demandait pourquoi Metal Gear, pourquoi un jeu de survie, pourquoi en multijoueur,
pourquoi des zombies
en ligne, pourquoi des espèces de zombies bizarres avec la tête éclatée. On s'est posé beaucoup de questions. Il y a eu des sessions de jeu par la suite, notamment Julo, je crois, à l'E3, qui avait été plutôt rassuré. Qui avait
oui,
trouvé
parce
ça plutôt
que
sympa.
Dans ce passage, c'est que oui, c'est un
jeu. Trouvé ça génial. Hein.
Ouais, c'est ça. Je trouvais que c'était le jeu le plus extraordinaire de l'E3. Hein, quand
je me rappelle.
Lequel
Survive.
Il était à deux doigts d'avoir le award de jeu le plus attendu
de 2018. Tu te fais de la gueule du monde ou quoi?
Et bien sûr. Et donc, c'est vrai que quand on l'avait vu, on avait été plutôt rassuré en se disant voilà, putain, ils ont fait un truc qui tient la route, quoi. Le système, la réalisation.
Mais est-ce que c'est vraiment le cas?
Bah là maintenant c'est le test, mon gars.
Thomas, c'est toi maintenant qui va nous donner la vérité sur Metal Gear Survive, donc qui est sorti sur PS4, Xbox One et PC. Et alors Thomas, dis-nous tout.
Alors Évidemment,
rappelons un petit peu le principe.
On va voilà, resituer un tout petit peu le plot de cet épisode parce que c'est un spin-off, hein, il n'y a pas de numéro dans le titre. C'est un spin-off qui se situe entre Ground Zeroes et The Phantom Pain, donc entre le prologue de l'épisode 5 et l'épisode 5
la
en
Mother
soi.
La Mother Base a été éclatée.
Alors, en fait, voilà, il y a une espèce de ficelle scénaristique au début, assez pratique pour le coup, qui dit allez hop, trou de verre pendant l'attaque de la Mother Base. Il y a une partie en fait, voilà, il y a une partie des troupes en fait qui est aspirée dans un trou de verre. On te balance par-dessus ça. Plein d'extraits en fait avec un montage un peu chaotique de trucs très mystérieux, on te tease énormément de choses, on te fait comprendre que tu ne comprends rien mais que t'as été aspiré dans une autre dimension peuplée de zombies qu'on appelle les errants et qu'il va falloir en fait réussir à rentrer chez toi, donc à réactiver un trou de verre que tu maîtrises pour regagner le monde tel que nous le connaissons. Mais donc en attendant, eh ben, il va falloir, comme le titre l'indique, survivre. Parce qu'en fait, tu arrives dans une zone un peu déserte, terne, morne, un peu comme le reste du jeu, où tu vas trouver ta base, en fait, qui est le camp retranché dans lequel tu vas crafter un petit peu tes items, que tu vas développer en fait des postes qui vont te permettre de créer tout un tas de choses à manger, des armes, des outils, des gadgets, plein de trucs. Et en fait, il va falloir partir de cette base à chaque fois en mission pour récupérer des cartes mémoire. Enfin, à chaque fois, en fait, t'as une IA qui va te guider en te disant hey, par là-bas, il y a un truc, je serai toi, j'irai voir ce qui se passe de ce côté-là. Et entre tout ça, eh ben, il va falloir gérer ta faim, ta soif, tes maladies, puisqu'en fait, c'est un jeu impitoyable dès le début. C'est-à-dire que c'est très pratique d'avoir fait la bêta. Pour ceux qui n'y auraient pas joué en fait, avant de se lancer, c'est vraiment un jeu.
Tu l'avais fait, toi? Moi, toi, t'avais fait les impressions.
J'avais joué avant un petit peu chez Konami, donc j'avais pas vraiment joué à la bêta, j'avais les mécaniques déjà en tête. Pour ceux qui n'y auraient pas joué, c'est un jeu qui te pète la gueule d'entrée en fait. Il ne cherche absolument pas à être accueillant.
C'est-à-dire que... Mais est-ce qu'il se la joue roguelike? C'est-à-dire que si quand tu te fais défoncer, tu reviens avec quand même l'expérience que tu avais accumulée auparavant ou le craft que tu avais récupéré?
Pas du tout.
Ah oui.
En fait, il faut rentrer à la base à chaque fois pour valider ce que tu as pu looter. Tant que tu n'as pas regagné ta base, il n'y a pas de sauvegarde. D'ailleurs, petit détour sur la sauvegarde parce qu'on en a parlé évidemment aujourd'hui. Il y a une sauvegarde de base dans le jeu. Plusieurs slots qui sont lockés en fait dès le menu. Et pour débloquer une sauvegarde supplémentaire, et ça vous coûte la bagatelle de 10€.
Quand tu dis une sauvegarde supplémentaire, c'est la création d'un deuxième personnage.
Alors évidemment, tu peux supprimer ton avatar, mais si tu veux le conserver
et en faire un autre,
faire un personnage d'un autre sexe par exemple, ou te dire que en fait à la fin du jeu tu débloques des classes supplémentaires, tu n'as pas que celle avec laquelle tu fais l'aventure principale, c'est 10 balles le slot supplémentaire.
C'est astucieux.
Voilà.
C'est très astucieux.
Tout simplement.
Ouais, très astucieux, t'es sûr?
Oui, je suis sûr. Oui. C'est très astucieux pour que les gens aient plus envie d'y jouer. Mais bon.
Oui, c'est ça. C'est se donner quoi, du mal pour
un jeu vendu
pour
il est 40 euros. Prix fort, mais
mais tu l'as payé 40 euros. C'est pas un free to play. Hein. Tu l'as quand même déboursé un petit peu d'argent pour une
base. Même si c'est pas 70, c'est
pouvoir créer plusieurs personnages, c'est un peu le minimum quand même sur ce genre de jeu.
Surtout qu'à un moment donné, tu débloques plusieurs classes. Et donc, sur l'aspect survie, en fait, ce qu'il va falloir faire dès le début, vraiment, c'est aller chercher à manger, à boire parce que t'arrives, t'as faim, t'as soif. Et en fait, tu vas avoir faim et soif tout au long du jeu. Tu consommes un nombre de calories à la seconde qui est absolument hallucinant.
C'est génial le piège là.
Et du coup, tu commences en fait par aller chasser du mouton, récupérer de l'eau croupie et ensuite éventuellement partir en mission. Et tu peux mourir de la dysenterie effectivement, parce que t'as rien pour assainir ton eau au début de l'aventure. Donc tu es en proie aux maladies, aux blessures, etc.
Ça fait le ton aussi.
Et ça fait le ton évidemment, puisqu'à un moment donné, il va bien falloir que tu sortes de ta base. Une fois que t'as fait des réserves de nourriture, etc., tu vas aller au contact des zombies parce que tu as commencé à crafter.
Là, tout ce que tu nous racontes là, que tu fais au début du jeu, t'es en solo ou t'es directement en multi?
Alors le multi ne se débloque qu'à partir d'un certain moment en fait de la campagne solo.
Et il faut payer 10€ en plus.
pour le coup non, mais voilà, tu peux pas commencer.
Mais t'as combien d'heures comme ça en solo à faire de la survie avant de sortir de la base?
T'as peut-être 5 heures de jeu, un truc comme
ça. Ouais, quand même.
T'as une mission à faire, t'as une mission précise
modèle de Monster Hunter.
Avant que le jeu te dise ok, ça y est, à partir de maintenant tu peux aller te connecter en ligne et jouer avec d'autres personnes.
Et cette partie justement solo, elle arrive quand même à accrocher un petit peu, enfin en tout cas ce qui te concerne.
Alors elle va accrocher une partie du public. En fait, il y a des gens qui vont apprécier le jeu. Il a un côté évidemment redondant. C'est du loot, c'est du craft, c'est
Des jeux comme Don't Starve et je passe sur des Rust, The Forest, des jeux de survie aussi. On peut y retourner quand on a envie et
tout
on prend toujours
exact,
le même
plaisir. Exact. Plus. Là, le souci, c'est que c'est répétitif, mais c'est en plus pas très engageant visuellement, c'est C'est, je l'ai dit, c'est terne, c'est monochrome, et en plus, en fait, tu, ta base est entourée d'un espèce de brouillard qu'ils appellent la cendre, dans lequel tu ne peux pénétrer que si tu as une réserve d'oxygène qu'il va falloir alimenter parce qu'elle part très très vite au début. Et bah, du coup, en fait, t'as des paysages brumeux, c'est-à-dire que déjà, c'est de la terre, c'est vraiment un truc un peu désertique avec très très peu de couleurs, mais t'en as de moins en moins au fur et à mesure que tu t'enfonces dans le brouillard. Et ben, à moins que t'accroches vraiment à la mécanique qui est de te dire « Ok, j'y vais, je défonce des zombies, je récupère une énergie sur leur corps », parce qu'en fait, tout l'intérêt, c'est ça, c'est qu'il y a une espèce de monnaie slash énergie en jeu qui s'appelle le Kuban, que tu récupères ou en détruisant des cristaux ou en lootant en fait le corps des zombies. Ça prend d'ailleurs une méga plombe, et c'est ça qui va t'aider à crafter des armes, à développer ta base. Donc t'en as absolument besoin, sauf que le cercle vicieux, c'est que pour aller défourailler du zombie, récupérer des Kuban, il faut que tu aies pensé d'abord à avoir de l'eau, à avoir de la nourriture, ce qui fait qu'en fait tu as des dépenses énergétiques tout le temps. Donc c'est un jeu qui te contraint. À chaque minute où tu joues, tu dépenses des calories et tu pestes en fait contre le temps qui passe. C'est le fait que tu vas devoir à nouveau manger, boire,
mais ça,
etc.
Les jusque-boutistes de ce genre de jeu, ils vont adorer.
Exactement. Et c'est pour ça que je dis que ça va plaire à une partie du public. Oui. C'est que les gens qui vont accrocher à ce côté ultra axé survie et très réaliste, en fait, même si on n'a pas autant faim dans la vraie vie, ces gens-là vont kiffer. Pour les autres, je pense que voilà, ça va être assez redondant assez vite, sachant que au moment où tu développes ta base, où tu commences à avoir des nouvelles installations, à récupérer de l'eau de pluie, à cultiver un champ de pommes de terre, à pouvoir faire des recettes avec, tu crois que t'es peinard parce que tu te dis ça y est, j'ai atteint une certaine forme d'autonomie et tout, et en fait non, parce que comme t'as des missions de secours où tu vas récupérer d'autres types qui comme toi sont passés à travers un trou de verre et se retrouvent dans cet univers, et ben va falloir les loger, leur filer à bouffer, etc.
C'est Walking Dead, hein.
Donc bah oui, c'est du Walking Dead,
voilà.
Franchement.
Mais donc en fait, tout ce que tu récoltes, à un moment donné, tu vas devoir le mettre au profit de la communauté, ouais, finalement, ça, ouais. Pour que les gens que tu as recueillis ne crèvent pas de faim. Donc d'accord. En fait, t'es jamais tranquille.
Et tu peux ne pas les recueillir ?
Si, non, t'as pas le choix parce que c'est des missions.
D'accord.
Okay. Si tu veux, t'as des missions secondaires où on te dit, là-bas, il y a peut-être un truc sympa. Parce qu'à un moment donné, en fait, tu vas débloquer des téléporteurs qui vont te permettre justement de te déplacer beaucoup plus
d'accord,
vite sur cette map qui est quand même assez grande, assez dense. Et ça donne lieu à des phases, en fait, c'est l'autre partie du jeu. Ça te donne accès à des phases de tower defense, en fait, complètement.
Ah ouais.
Parce que t'as un point central où tu mines en fait le sol, où tu actives un téléporteur, et à ce moment-là, évidemment, ça va rameuter tous les zombies environnants, ça va en faire popper certains du ciel, enfin en gros, tout le monde arrive pour te défoncer. Et à ce moment-là, il faut bien gérer la pose de clôture, parce qu'en fait, tout ce que tu peux crafter, il y a évidemment des armes, des kits de soins, etc., mais aussi des barrières, des grillages, des mines, plein d'éléments que tu peux poser en fait pour empêcher en fait l'avancée des zombies. Et à ce moment-là, tu vas devoir faire le tour de ta base, défoncer un peu tout le monde, revenir, rebâtir des clôtures, parce que eux, comme dans The Walking Dead, ils s'appuient dessus, ils finissent par les défoncer, etc. Et c'est énormément de stress, en fait. C'est un jeu qui te demande pas mal de concentration.
Et alors moi, je voudrais revenir sur un point particulier, c'est que la prise en main de Metal Gear 5 est assez particulière quand même, et on voit qu'il y a beaucoup d'éléments d'action dans le jeu qui font même penser à du Dead Rising, la façon dont une masse gigantesque et t'arrives au milieu, tu les défonces tous, t'as des pièges à la con, tu les fais glisser, il y a des hélices
dans
pour les
un
découper.
Trou,
ouais, c'est ça, je voulais justement rebondir, pas forcément sur la même chose, mais sur ce point précis, sur les... Ça serait une question dans la question.
Ouais.
Justement, les pièges, là, ça a l'air super drôle. Il y a des trucs, des plaques sur lesquelles tu glisses.
Il y a de tout. Il y a un côté un peu con-con qui colle bien, en fait, avec la licence, d'une manière générale, parce que Metal Gear ne se prend pas systématiquement au sérieux.
Absolument.
Donc, c'est quand même assez raccord, mais... Tu sens bien au final que tout ce qui est en fait le propre de la saga, la saga de feu Kojima, même s'il n'est pas mort, ça a été rajouté un petit peu de manière opportuniste et parfois de manière un petit peu forcée en fait. Le jeu en soi, je veux dire, ça aurait pu être un...
Ah oui, il a rien de Metal Gear.
Ça aurait pu être un jeu de survie. ce qu'il a de Metal Gear, c'est que voilà, c'est la Mother Base.
On a vu un trailer où il y avait un Rex aussi.
Oui,
un Rex zombifié.
C'est ça, vers la fin du jeu, il y a un espèce de Rex qui se réveille. Mais je veux dire, on a vu l'infirmière la passer, c'est une infirmière designée par des Japonais, à l'ancienne, etc. Mais en soi, je veux dire, t'enlèves ça, à la place du Rex, tu mets n'importe quel robot qui tire un espèce de laser géant, ça change rien au jeu, en fait.
Et la composante multijoueur du coup?
Alors les phases de multi en fait
ça vaut pas
c'est
déjà pour savoir s'il y avait du monde quand ça vaut
pas
fort. Right.
Alors il y a du monde, le problème c'est que le matchmaking pour l'instant et c'est pas encore ça, c'est un petit peu le bordel. Moi je me suis surtout retrouvé, alors heureusement pour moi, malheureusement pour eux, avec des gens qui avaient quelques niveaux de plus, puisqu'en fait le Cuban te permet aussi de leveler en plus de tout ce que tu peux crafter, donc tu atteins un certain niveau, tu débloques des compétences, etc. à un moment donné. Et donc c'est des parties à 4 où pour le coup tu ne vas avoir que cette phase de tower defense avec l'excavateur dont je parlais.
C'est le seul mode disponible ça?
Ouais, c'est
que du tower defense.
Les phases de multi en fait, c'est tu défends ou une base ou un excavateur, donc tu es avec des gens.
Et forcément à 4 contre 4, c'est ça que tu veux dire?
Ah non, c'est 4 contre le reste du monde en fait.
C'est du PVE. Ouais.
C'est 4 contre des hordes de zombies qui ne s'arrêtent jamais. En fait, généralement tu as 3 phases d'attaque. Et entre ces phases, t'as quelques dizaines de secondes de répit où il va falloir que tu te soignes, que tu manges, que tu boives, que tu répares tes défenses.
Ça, c'est le mode qu'on avait fait justement sur les salons. On se mettait à 4 hein, sur 4 boards différentes et puis on faisait du tower defense. Je pensais que c'était juste un des modes par contre.
Non, c'est le mode principal. Après, en fonction de ton avancée, bah là, on voit une espèce de gatling.
Et donc, tu peux pas partir en exploration à plusieurs dans,
non, ça, c'est
dans
le
les cendres.
Ça, c'est le mode solo.
Putain, c'est dommage ça. Parce que du coup, il n'y a pas le côté Monster Hunter qui aurait pu être pas mal.
Pas du tout.
C'est que de la survie tower defense quoi, quand t'es en plus.
Non, parce qu'en fait, quand tu pars en solo, pour MGS5, il y avait des phases d'infiltration avec des bases des fois gigantesques à vider en fait de leurs effectifs. Là, le level design, il est quand même vachement moins inspiré. T'as des espèces de petits bunkers ou des anciennes zones industrielles dans lesquelles déambulent des zombies. Et bon, bah t'y vas, t'essayes ou de la jouer infiltration ou de tous les défoncer pour récupérer des cubanes. Mais c'est quelque chose que tu fais seul et parce que tu dois gérer une jauge d'endurance qui fait que dès que tu t'allonges, dès que tu t'accroupis, dès que tu cours, bah t'es crevé en fait, et en plus ça pompe de l'énergie, etc., etc. Donc ce sont des phases de jeu qui sont véritablement pensées pour que tu gères toi-même ta séquence comme tu l'entends.
Bon, en tout cas, c'est des menus à la Metal Gear Solid 5. Hein, et
absolument.
Il y a plein de trucs à l'écran.
Oui, ah, alors putain. La maniabilité, c'est Metal Gear Solid 5 aussi.
Menus,
et
ça, ouais.
Plume parlait justement de l'interface juste avant. Comme il y a beaucoup plus d'éléments en fait à gérer que dans MGS5, l'interface est un petit peu plus compliquée parce qu'à un moment donné, tu pars quand même avec plusieurs types d'armes, des vivres, des soins médicaux, etc. Et en plus, toutes tes clôtures, tes cocktails Molotov, etc. que tu vas devoir utiliser pendant les phases de Tower Defense. Et tout ça se gère sur un micro-hub qui est autour de ton personnage. Et il y a des moments, c'est quand même sacrément confus. C'est-à-dire qu'il faut pas mal rentrer dedans avant de véritablement avoir une bonne idée, une idée assez claire de tout ce que tu as en termes de matos, d'items, etc. et de les utiliser à bon escient. Ça demande du temps, ça demande de se louper, et de toute façon, c'est simple, vous allez mourir dans Metal Gear Survive parce que on finit toujours par mourir, parce qu'on finit toujours par se faire attaquer, on voit sa barre de vie descendre en l'espace de 2 secondes, et on crève, et il faut recommencer l'action.
Ouais, alors qu'est-ce qu'on a pensé ouais, au global
pas.
Alors,
l'achète ou pas, on l'achète
parce
pas.
Que là je suis perdu là.
Bah,
tu as réussi à me perdre.
Non, mais je sais pas, ça a l'air bien et pas bien.
J'ai un sentiment assez mitigé, c'est-à-dire que, comme Plume le disait justement, ça va plaire aux méga fans de survie, aux mecs qui ont vraiment les hardcore, qui ont envie d'en prendre plein la tronche, de lutter à chaque seconde. Ça peut être une bonne cam, parce que vraiment, c'est un élément déterminant du gameplay. Pour les fans de Metal Gear, c'est très discutable parce
eux, ils ont déjà fait leur choix de toute façon.
Voilà, eux de toute façon, ils ont condamné
même,
le jeu
même
par avance.
Dans l'équipe de programmation, ils ont fait leur choix aussi visiblement.
C'est ce que j'allais dire. De ce qu'on a vu sortir, oui.
Avant d'y jouer, il était déjà condamné.
Il
bon.
Y a quelques messages cachés effectivement au début du jeu qui ne sont pas hyper flatteurs vis-à-vis du producteur et du réalisateur de ce jeu.
Oh, peut-être pas. Peut-être qu'ils aiment bien.
Ou alors ils ont.
Ils sont de collusion.
Ils manient l'autodérision.
C'est tout possible aussi, mais bon.
L'autodérision japonaise, ouais.
Ah, je sais pas, ils ont bien.
Oui, c'est vrai qu'il y a ça fait un peu oxymore.
Tout à fait.
Quand on entend ça.
C'est pour ça que je me permets de le dire.
C'est vrai.
Donc voilà, ça plaira à une certaine partie du public. Par contre, je sais pas si des gens extérieurs ou à la licence ou au principe du jeu de survie auront forcément envie de s'y lancer parce que c'est vraiment très dur, c'est visuellement pas très engageant et c'est surtout très répétitif en fait. Tu enchaînes les missions à te téléporter quelque part, à aller looter un petit peu, récupérer l'item qu'il faut pour compléter la quête principale, revenir à la base et recommencer. Et de temps en temps, tu vas avoir un personnage qui va continuer à compliquer l'intrigue, et même à ce niveau-là, le scénario du jeu, il est pas super passionnant. Les gars que tu rencontres sont un petit peu random en fait. Ça fait direction artistique un petit peu générique et sans âme la plupart du temps.
Et c'est toujours dans le même décor, etc. Mêmes environnements.
Ah oui, c'est plein que ça, tu vois. Vite,
Désert est plein façon Metal Gear.
Metal Gear du pauvre.
Un peu post-apo. Enfin bon, c'est très spécial.
C'est très spécial. Donc, j'allais dire, il faut se faire une idée en y jouant. Donc, idéalement, en fait, il aurait fallu tester les bêtas qu'il y a eu avant la sortie du jeu. Mmh. Maintenant, voilà, renseignez-vous parce que ça peut éventuellement vous plaire.
Ce qui me surprend quand même dans tout ce que tu dis, c'est que moi, j'imaginais le jeu comme un truc avec en premier plan la dimension multijoueur.
Ouais, tu pars avec tes potes et tout.
En fait, pas du tout. Non, en fait, c'est juste le mode principal, c'est le mode solo et le multijoueur, c'est un truc en plus. Quoi.
Oui, mais tu dois avoir une connexion obligatoire.
Et effectivement, c'est l'un des nombreux points noirs du jeu. Serveur, ouais. C'est que, comme officiellement de la part de Konami, ils voulaient qu'il n'y ait pas de coupure entre le mode solo et le mode multi, tu es obligé de t'y connecter en permanence pour pouvoir y jouer, ce qui leur a d'ailleurs permis de garder les serveurs au chaud avant la sortie officielle du jeu. Il y a ça, et il y a énormément de microtransactions, parce que c'est un des points forcément sur lequel il faut insister.
Ah, ils ont abusé le système.
Il y a beaucoup de possibilités en fait pour gagner de l'XP, pour avoir des extensions beaucoup plus tôt dans le jeu, lâchant des micro-thunes, en lâchant des vrais euros du monde réel.
Non, parce que dans Fortnite...
Oui, c'est gratuit, je sais, machin, mais...
Là, c'est pas du skin.
Dans Fortnite, t'achètes... Là oui. C'est du pay-to-win, là, oui, t'achètes ça, du matériel.
Oui, c'est clairement du pay-to-win.
C'est que du skin, ouais. C'est que cosmétique.
Tu vas pouvoir gagner des heures et des heures de jeu si tu lâches un petit peu de thunes pour acheter un certain type de crédit que tu ne peux en fait obtenir qu'à travers la boutique du jeu et qui va te permettre de leveler, de construire plein de trucs et tout.
Ah, pay-to-win, c'est un vrai défaut, quand même.
Donc, c'est un problème. Alors après, à titre perso, moi, j'ai pas caqué une thune
dans le
jeu.
À quel point plus lentement que les autres. Non,
c'est un problème quand c'est du compétitif, le pay to win. Quand c'est du solo,
c'est
beaucoup moins déséquilibré quand c'est du solo.
De toute façon, il n'y a pas d'ulti compétitif là-dedans. Donc,
exactement. Donc voilà, donc finalement, voilà, c'est du pay to win comme on en trouve sur les jeux mobiles.
Ouais, après, tu peux profiter. Pardon, Eve.
Non, c'est Jules, il dit en fait, c'est un free to play en format bot. Je le dis plus fort, oui, parce que je n'ai pas bien collé mon... Ouais. Excusez-moi, il y avait... Alors, Jules, qui disait, en fait, c'est un free-to-play en format boîte.
Alors, pas exactement, parce que tu peux quand même t'en sortir à la dure, mais sans payer quoi que ce soit. Tu vas avancer, comme tu le disais, Julo, assez lentement, mais moi, je m'en sors. Je veux dire, je commence à avoir pris le coup, à avoir des automatismes, à réussir à gérer quelques trucs. Donc, tu n'es pas non plus obligé de lâcher de l'argent en plus pour progresser. Par contre, tu vois qu'effectivement, dès que tu le fais, tu gagnes des heures et des heures de loot, d'exploration et tout ce que tu veux. Tu accélères clairement le rythme. Par contre, du coup, ça pète un peu l'équilibre du jeu, en fait.
Bon, et ça mérite quelle note, du coup ?
Bah moi j'ai mis 6. Satisfaisant parce que en fonction de vos goûts, ça pourrait éventuellement vous plaire. Et par contre, si tu rentres dedans, le jeu est dense, c'est quand même très long. Même si c'est répétitif, t'as beaucoup de contenu, t'as une map qui est très très grande à explorer. Et une fois que tu termines le jeu, t'as des classes supplémentaires qui se débloquent, qui te permettent d'approfondir un petit peu tes personnages. Donc pour peu que t'accroches, il y a vraiment une durée de vie qui est très conséquente. Par contre, si d'emblée, voilà, tu te fais péter la gueule et que tu trouves tous les défauts qu'on a cités, à savoir c'est terne, c'est répétitif, etc., bah, ça va pas beaucoup changer
parce
jusqu'à la fin du jeu, en fait.
Tout ce que tu nous racontes. Hein.
Voilà.
Très bien.
Bon. Est-ce qu'il y en a qui jouent, Eve, sur le chat ou sur Twitter?
J'ai demandé aux gens si ça les intéressait. Alors, par exemple, il y avait Maiden Cloud qui disait ça a l'air ennuyeux au possible, ce spin-off.
C'est pas ennuyeux, c'est très stressant. Hein.
Okay. Et très d'ailleurs, il y avait Christophe qui te demandait est-ce que toi, tu as pris du plaisir à jouer à ce Metal Gear Solid ?
Oui, Metal Gear Survive, quand même, oui. Il y a des moments, enfin, t'es content si tu veux de trouver des matériaux à un moment donné et de voir ta base grandir. Genre, quand j'ai récupéré ma première citerne et qu'à côté, tu te fais un feu de camp où tu vas pouvoir...
Je comprends ce que tu veux dire.
Où tu vas pouvoir stériliser l'eau que tu récupères et enfin avoir de l'eau claire.
Oh là là, ça c'est...
Mais t'es juste,
c'est un bonheur,
t'es juste trop content. T'es heureux parce que enfin fini l'eau croupie.
Ah mais ça se voit sur ton visage.
Fini la dysenterie.
Là, t'es en train de transmettre ta joie là comme ça.
Il y a des moments
podcast
où t'es très très content quand tu vois véritablement que tu progresses. Quand tu fabriques ton premier fusil, tu te dis ah ouais putain là je vais quand même pouvoir en enchaîner quelques-uns d'affilée. Voilà, t'as un sentiment de progression qui est jouissif si t'adhères au concept.
Bah d'ailleurs regarde, ils sont en train de jouir, Julo et Traz là, ils sont à mesure que tu en parles, ils sont un peu statiques.
Il y a des petits plaisirs quand même dans le jeu. Moi j'ai pris un certain plaisir à y jouer, et je vais même continuer.
Voir un plaisir certain.
Après avoir fini le test.
Et Eve, elle a joué, elle a déjà fini, elle adore.
Très bien.
Ouais, voilà, merci de m'inventer une vie.
Eve. Et,
oui, il y avait Puppet Master qui demandait y aura-t-il un classement des meilleurs joueurs mondiaux prévus?
Il y a des leaderboards?
Je n'en ai
aucune idée.
Bon ben voilà,
tu
les aurais
peut-être vu quand même, non?
Moi j'ai rien vu, donc je ne sais pas.
Comment tu veux classer les gens, puis c'est pas compétitif, donc
Ouais, mais sur le nombre de kills que t'as pu faire, ouais, ou le loot que t'as pu récupérer,
comment t'as s'en sort,
le problème c'est que tu peux rejoindre une partie,
l'argent que t'as dépensé,
tu peux rejoindre une partie avec des gens que tu connais pas et les pourrir, parce que bah en fait tu peux te barrer, aller looter ce que tu veux et les laisser défendre la base. C'est pas interdit non plus, quoi. Très bien.
Et alors, pour continuer
sur Steve, tu finis
arrête de couper F, qu'est-ce qu'on t'a déjà dit?
Non, mais c'est bon, hein, t'inquiète pas.
Vas-y,
pour
parle.
Pour continuer sur les avis. C'est quoi, tu me donnes des ordres maintenant?
Alors, tu fermes ta gueule, d'accord?
Il y a Fenril qui disait oui. Il est moche, il a l'air d'un chien. Et puis il y a tellement de bons jeux en ce début d'année que j'ai bien d'autres choses à faire. C'est peut-être ça aussi le problème, oui.
Ouais, c'est vrai que depuis que Pastiquio est sorti.
Non, mais t'as Monster Hunter qui est sorti juste avant, et je vais pas les comparer, mais c'est deux jeux où tu pars explorer des trucs, et mine de rien, je pense que tu vas plus être happé par un Monster Hunter auquel tu peux jouer en plus avec des potes, partir en raid et tout, que Metal Gear Survive, qui est effectivement pas très joli, hein, c'est le Fox Engine, il a franchement vieilli.
Je suis désolé, mais Fortnite bouffe tout le monde.
Et en plus, Fortnite, oui, mais là on est dans du vrai compétitif, tu vois.
C'est pareil. Tu joues avec des potes sur le net et puis voilà, c'est fini.
Mais t'as des chiffres ou pas pour ça?
J'ai plein de chiffres.
Ok.
45 millions de joueurs.
Il a le prix des DLC.
3 millions en même temps.
Ouais.
Saison 3.
Ouais.
Il les a retenus.
Voilà. Et en ce moment, tout est moitié prix pour.
C'est vrai?
La version Sauver le Monde. Si vous
Attends, c'est Tom que... Sandwich que tu es devenu pour Fortnite.
Je l'ai pas acheté. Hein.
Ça veut dire que je peux acheter le skin de John Wick à moitié prix là?
Non, je parle de Sauver le Monde, pas de Battle Royale.
Ah bon, tant pis.
Bon, bref. Bon, tout le monde va jouer alors. Je vais mettre à l'écart sur Ray, c'est sûr.
Bah oui.
Ou pas.
En tout cas, il se continue à se faire railler sur les réseaux sociaux, ce pauvre.
Il partait avec un gros handicap quand même.
Alors, ouais. Juste pour préciser, moi justement, je ne l'ai pas condamné d'avance parce que c'était le premier Metal Gear post-Kojima. Je veux dire, la licence appartient à Konami, ils ont le droit de continuer à l'exploiter.
J'ai presque l'impression que tu as hésité avec la note du dessus quand même.
7, pas du tout.
Voilà.
Absolument pas.
Donc, désolé.
Non, mais je veux dire, je l'ai pris pour ce que c'était, un spin-off d'une série dont Konami a les droits, et c'est pas parce qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé avec Hideo Kojima,
là,
les conditions
dire,
dans
oui,
lesquelles
ça,
il est
ça
parti,
n'est pas,
ça n'est pas
le
pris en compte,
n'a
si
pas
tu veux.
Intervenu dans ta notation.
Voilà, t'as quand même des gens qui ont bossé dessus derrière, qui sont sans doute des fans de la série, etc. Donc,
Non, mais je te laisse finir, hein, c'est pas la peine.
J'ai terminé, ma chère Eve.
Très bien. Non, il y a Fenril aussi qui était forcément scandalisé par les 10 euros à mettre pour une sauvegarde. 10 balles.
C'est scandaleux, très clairement.
10 balles la sauvegarde, c'est un vrai scandale. Si ça fait pas un bad buzz à la Battlefront, c'est que tout le monde s'en fout.
Je crois qu'il y a assez à peut-être de
il
ça.
Il a raison. Mais ça aurait été le truc, franchement, là, je pense que.
Ouais. Non, mais t'as l'impression qu'ils en ont pas entendu parler, en fait. T'as l'impression que Konami était dans une grotte, justement, au moment où il y a eu tout le shitstorm sur Battlefront, qui a duré quand même des semaines et des semaines, parce qu'on en rajoutait une couche chaque jour.
Bah, c'est que dès que Konami sort de sa grotte, il y a des tweets de Guillermo del Toro qui arrivent pour dire fuck Konami. Les gens qui font ouais, t'as raison, Guillermo, on fuck Konami, etc.
Non, mais là, il disait si ça gueule pas, c'est que tout le monde s'en fout. Je crois que tout le monde s'en fout de ce jeu, en fait.
Le coût de la sauvegarde à 10 euros, ça fait quand même 2-3 jours que le net est en ébullition là-dessus.
Je l'ai
vu copier un petit peu partout. Bon, ça ferait si tu
veux. On a mis le gaz sur 3.
Ouais, ça sera bientôt l'heure de mettre les pattes.
Ouais. Voilà. Mais pas plus. Okay.
Donc oui, il y a beaucoup de choses qui sont scandaleuses aussi, ça c'est clair et net.
Je vais quand même finir sur une petite note d'optimisme, parce que bon, quand même, il y avait Puppet Master qui disait, par contre, c'est le premier MGS de ce genre avec une véritable innovation, ça fait plaisir d'avoir des phases de gestion. Bon, voilà, au moins quelqu'un d'optimiste.
Mais après, de là, ils pensaient qu'ils vont réussir à faire aussi bien qu'avec les Metal Gear Online qui sont parus pour Metal Gear Solid 3 et Metal Gear Solid
5
4
Non, c'était le 4
Ouais, il me semble que c'est le 4, je sais plus.
Je te fais confiance.
Je crois que c'est
le 4. Dans quoi, de quoi?
Il y avait du Metal Gear Online dans Metal Gear Solid 3 et Metal Gear Solid 4.
Pas dans le 3, non?
Si, si.
Non.
Si, si. Bien sûr qu'il y avait du online sur Metal Gear Solid 3.
3
bah sur PS2. Bah oui.
Et là, les gens sont en train de faire CTRL-T chez eux et de regarder
justement. Il y avait du online. Il y a eu deux online pour Metal Gear. Un sur MGS3, un sur MGS4.
Je crois.
Donc oui, il y a des phases de gestion qui changent un petit peu. Ouais. Bon, t'avais de la gestion dans MGS5 par rapport à tes équipes que t'envoyais looter tout un tas de trucs. Là, c'est vrai que c'est un petit peu plus développé. Et en plus, il y a des moments en fait où... c'est ta base qu'il faut complètement défendre, c'est-à-dire que les phases de tower defense, elles arrivent, c'est ta base qu'on attaque, donc c'est ce que t'as construit patiemment planche après planche, et là du coup bah, il faut grillager le tour, il faut monter des tourelles, il faut repousser l'envahisseur en fait.
Bon, eh bien
Eve,
voilà,
bon.
Ça va
Mesdames
être ton tour,
messieurs.
Merci Thomas pour ce test très précis à l'oral. Eve, on arrive bientôt à la fin, tu sais ce que ça signifie?
Vous n'avez pas vu, mais ses yeux
se sont
écarquillés.
Peut-être des choses dont tu as envie de nous parler. des questions,
alors, le truc,
des c'est... remarques.
Justement, je ne sais pas si tu as remarqué. Bon,
non.
Il n'y a pas eu de...
C'est
je
vrai,
crois que les premiums, ils sont en train de dormir là en ce moment.
D'accord.
C'est vrai.
C'est les vacances. Bah c'est pas ah oui, c'est vrai que c'est les vacances.
Et bah c'est l'heure de conclure. Vive les vacances, vive l'insouciance.
Oui, exactement.
Les embouteillages.
Ouais.
D'accord. C'est vrai que les vacances viennent de commencer
vive
pour
les
la
vacances,
zone B.
Vive l'insouciance.
Ça fait déjà une semaine, non?
Non, pour la zone B, elles viennent de commencer.
Ah bon?
Ma copine est en vacances depuis vendredi
ah.
soir.
Mais
la zone
travaille
B,
où
c'est Paris.
Elle travaille pas, elle est à l'école.
C'est
T'as pas compris encore?
Tu peux pas.
Ça va, je plaisante, détendez-vous. Ah,
t'as
de la chance, voilà,
Elena ne regarde pas les podcasts en direct.
Tu es libre de dire ce que tu veux.
Pourquoi elle peut être lycéenne?
Hein?
Elle peut être lycéenne, c'est ça que je veux dire.
Elena, elle peut être lycéenne?
Non,
non,
la copine de Thomas.
Ah, il aimerait bien, je pense, mais.
Non, elle est parfaite telle qu'elle est.
Ah, du faillot.
Non, je le pense.
Elle cuisine bien?
Ça le faillot.
Oh là 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 là.
Oui,
là,
et moi aussi, mon cher Jules.
Alors, c'est vrai, Thomas.
Surtout,
je demande
pas la fin de ce podcast.
Parce que les roues qui cuisinent bien, j'ai jamais
vu. De toute façon, j'ai eu le malheur de dire que j'aimais pas Shenmue 2, je me suis fait ostraciser. Et là, la semaine dernière, j'ai eu le malheur de dire que je n'aimais pas le fromage. Et alors là, c'est encore pire. Depuis que j'ai dit que j'aimais pas le fromage, c'est n'importe quoi.
Alors, t'aimes pas le fromage?
T'aimes pas le pinard?
T'aimes pas le pinard?
Le rouge?
T'aimes pas Shenmue?
Tu vas pas au cinéma?
Ça arrive
et
à des gens bien.
Tu
hein.
participes pas à la Saint-Valentin et au lieu de dire bonne année, tu dis joyeuse révolution terrestre.
Voilà.
Comment tu veux qu'on te perçoive? Excuse-moi. Déjà, t'es roux.
Bande de légitimistes de merde.
T'as pas d'âme et en plus, tu viens nous emmerder.
Non, non, mais invite-moi à dîner, moi, j'ai envie de savoir.
Ah bah voilà, ah bah tu sors, tu vas t'en
bah,
souvenir.
Je viens à
pas
Chantilly,
moi.
Y a pas de souvenir.
Tu vas t'en souvenir.
Tu vas t'en souvenir.
Ça fait presque peur.
Les chiottes vont s'en souvenir. C'est justement ce que je veux.
On parle pas trop de chiottes ici, s'il vous plaît.
Non.
Sinon, on va démarrer sur les anecdotes.
Il y a des gens qui s'évanouissent sur les chiottes, donc vaut mieux.
Ah oui, alors
Eve,
tu veux nous raconter comment tu t'es évanoui dans les toilettes?
Oh là là, c'est honteux, c'est honteux.
Maintenant, vous savez.
Voilà.
Vous n'en serez pas plus. Hein, parce...
Non, vous n'en serez pas plus.
Vas-y, t'allais dire un truc, excuse-moi.
Non, bah, j'allais dire quelque chose de sérieux. Y a...
Bien, vas-y, vas-y. Dis un truc. Vas-y.
Il y a Christophe qui voulait savoir quels sont les prochains rendez-vous de la semaine.
Eh ben, cette semaine, on va tuer des gens.
N'importe quoi.
Ouais.
Non, bah, on a
cette
un live.
Oui,
il va y avoir un live Metal Gear Survive.
Exactement.
Ouais, on le fait demain.
Midi et demi.
Oui. Demain, mardi.
Demain, au moment où on enregistre, donc au moment où le podcast sera publié pour les premiums.
Bah, ça, c'est pour les gens qui nous écoutent en direct.
Il y aura le replay. Voilà.
Sinon, c'était hier.
Exactement.
Ouais, mais c'est trop compliqué quand on rentre
ouais,
dans ces
quand on fait les timelines
là,
à chaque fois.
Non, faut arrêter les timelines, ok.
Faut arrêter les conneries là, faut arrêter
voilà,
les conneries.
Donc on dit mardi par exemple. Mardi.
Oui, mais ça tombe bien, c'est mardi.
Ouais. Mardi,
mardi,
mardi
on fait un live sur Metal Gear.
12h30, soyez là.
Exactement. Il y en aura peut-être d'autres.
Et puis voilà, après les rendez-vous habituels, on va peut-être faire d'autres lives. Voilà. On fait ça un peu. Les lives, c'est un peu freestyle.
Ouais, on peut tester des jeux aussi, non? On va faire des news aussi, c'est possible.
Putain, c'est
il est possible qu'on écrive des trucs qui vont être publiés sur le site.
Et qu'il y a un trivia,
même
un super rétro prime turbo.
Qui est trop fort.
Ouais, ouais, puis ouais. Ouais, il doit y avoir tout ça normalement.
Et alors, étant Eve, est-ce que numéro 6 était bien là?
Alors, j'ai pas vu le pseudo numéro 6 sur le chat, mais alors je sais pas, peut-être qu'il utilise un autre pseudo.
Ah, peut-être.
Alors, si numéro 6 est situé là.
Très difficile à trouver. Je me suis caché avec un nouveau pseudo, vous trouverez jamais. Numéro 7.
Okay. Ouais, donc je sais pas, bah oui, j'étais étonnée aussi. Je savais
bah
pas
parce
si. Bah, si il était là, peut-être que je lui parlais depuis
non,
tout à l'heure.
Non, mais il a menti, voilà.
Oui, oui, c'est
ce qui, pour un avocat, est vraiment grave, je trouve.
Il est... C'est vrai.
Mais bon,
c'est
voilà. Vrai. Désolé, maître, mais vous nous avez menti. Voilà.
Bonsoir, bon, maître.
Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus.
Comme ça.
On ouais, exactement. Ça va couper comme ça. Alors, la semaine prochaine, peut-être qu'on aura droit à un podcast spécial. Je n'en
ouais.
dis pas plus.
Ah.
Pour l'instant, c'est encore en pourparlers.
Spécial Saint-Valentin.
Voilà. Il faut réussir à mettre tout ça en place. Mais il se pourrait que ce ne soit pas un podcast
comme les autres.
D'actu comme les autres.
Exactement.
C'est
teasing.
Possible. Maintenant, c'est juste un teasing. Je ne promets rien. Je ne vais pas vous dire que ce sera ceci.
Bon,
ou
bah arrête, arrête. Parce
non,
que
je ne peux pas.
Mais
merde.
Du sang,
tu fais chauffer
bon.
Tout le monde.
Mais c'est possible. Voilà, c'est possible que la semaine prochaine, ça change un petit peu. Si c'est pas le cas, tant pis. Hein, on fera ça.
Ça ne ferait pas une maladie.
Exactement. On n'en fera pas une maladie.
Mais tu seras là quand même, rassure-nous.
Bah, ça se trouve, je vais encore choper une saloperie. Hein, voilà, alors,
arrête,
la grippe, c'est bon.
Arrête.
La gastro, j'ai pas encore eu.
Ouais, on s'en fout. Allez,
bah voilà.
Ensuite,
c'est tout
alors que je dise pas de bêtises, la rougeole, j'ai fait.
La
varicelle, j'ai fait. Ah, la varicelle, c'était dur. Hein. La varicelle, j'ai eu à 17 ans. Je vais te dire, j'ai bien douillé. Hein.
Ah, ouais. La connerie, c'était
non,
récent. 18,
18 pardon. Hein
non, rien.
Qu'est-ce que tu racontes
non,
c'est
la néo-connerie. Il était pas très très
néo-connerie. Bon, bah pour le néo-podcast, ce sera la semaine prochaine. On
exact.
Dit merci à Néo Thomas, Néo Julo aussi.
Néo Thank
okay.
You.
Néo Traz, Néo Eve.
Yo.
Et surtout, suivez la page
de Sono. Et évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la news de ce podcast. Likez, partagez, etc. Tout ce qu'il faut jusqu'à la semaine prochaine.
Envoyez des dons. Ouais, pas,
ouais, bah, si tu veux, ça te fait plaisir. Écoute, si c'est vraiment la chose qui te tient à cœur, pourquoi pas.
Exactement.
Mon cher Julot. Et puis on se dit rendez-vous à la semaine prochaine, évidemment, pour un autre podcast de la rédaction. Merci à vous.
Des bisous.
Ciao.
Salut.
Bisous.
Salut à tous. Ciao.
Et donc.